mis la vue des lumières et tout.
Des éclairs, moi j'ai vu l'orage à l'intérieur.
C'est la première fois de ta vie que tu vois des éclairs.
Ah, non, mais, bonne navire,
moi, je suis ça, je des éclairs qui traversent le mur, qui pénètrent la
terre.
Et
à l'intérieur, là.
Et puis... Oh, oh. Et puis j'entendais des bruits.
Ça t'a touché la peau.
Dans ta tombe, j'entendais des bruits.
T'entendais pas les bruits dans ta tombe?
Ça craquait, il y avait, le tonnerre des trucs.
Ça t'a fait plusieurs, hein, j'entendais les pas.
C'est pour ça qu'à un moment donné, vous dites, il y a quelqu'un.
Oui. C'est pour ça que j'ai fait une priapé en 13.
Je vais me demander s'il y avait quelqu'un.
Mais... On appelle ça une priapé en 13 de dévotion, celle que vous m'avez entendue.
Oui, j'ai entendu.
Dire à la fin de la messe. Ouais, là, la messe
oui, tout à l'heure.
Hier soir.
Non, mais je me suis dit, ça y est, c'est Père Patrick qui a fait un exorcisme sans nous le dire et c'est moi qui le pète tous les derniers.
Et Lionel, donc oui, j'ai raconté, oui, je t'avais remplacé, au père.
Toi aussi, alors, tu as été attaqué
aussi. Il y a eu des attaques, tout le monde raconte ses attaques, là.
Pendant le café.
Quand, à quelle heure, quand?
Pendant la dernière.
Ah, tout de suite, là, tout de suite.
Non, hier soir, pardon.
Enfin, ah, hier soir,
à 1h du matin.
Non, à 1h et à 3h du matin.
Celle de cette nuit.
À 3h du matin.
C'est pas dans la passion de l'exorcisme de ce matin?
Pardon.
C'est pas le.
Je me prends comme un boulet de canon dans
la réaction.
Boulet de canon où ça?
Comme ça dans le dos.
Dans le dos.
Oh. C'est pas la première fois. Hein.
Ah ouais.
Bon allez, bienvenue au club.
J'ai envie de dire oui.
Tu disais Joseph.
Donc tu vois ce qu'ils ont eu de la prière de ce matin déjà.
Ah oui d'accord. Comment?
Mais c'était cette nuit.
Oui, mais ça peut arriver. Quelquefois, il n'a pas eu l'odeur avant et il commence à. Il va partir. Coup,
temps,
il
j'ai fait la prière ce matin à cause de ça.
Pardon.
Prière de Léon 13, vous savez, c'est une dévotion, cette prière de Léon 13. Si vous la formulez de la manière que vous l'avez entendue, vous ne vous adressez pas au démon. Vous voyez, vous savez, je ne me suis pas adressé au démon. Il est chassé, l'esprit du monde.
Oui.
Voilà, je suis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est chassé. Il est exorcisé. Hein, c'est faux. C'est... Marthe, petite Marthe Robin, disait la prière de Léon 13 plusieurs fois par jour. En dévotion privée. Avec le Père Emmanuel, il faut connaître. Heureusement qu'elle avait la prière de Léon 13, hein, Marthe, parce que. Quelquefois, elle ne pouvait pas parler. Donc, là, il en profitait.
Vous l'avez vu, Marthe?
Hein?
Est-ce que vous l'avez vu?
Oui.
Moi aussi, je l'ai vu.
Ah.
Moi aussi.
Ah, bah,
c'est elle qui m'a élevé.
Moi, le plus grand truc que j'ai vu, c'est Ellie. Oh. J'ai vu Ellie sur mon lit. Ah, c'est vrai?
Oui. Ah, ça, c'est vrai.
J'ai vu celui avec l'ours, là, je ne sais jamais. Comment ça s'appelle?
Saint-Séraphin de Sarah.
Séraphin. Avec son ours. Séraphin et son ours me protégeaient. Et il y avait Ellie d'un côté et lui de l'autre côté. Et tout d'un coup, une panthère noire, un truc vraiment d'une méchanceté, qui était sur le meuble parce que je dormais chez le père. Et la panthère noire, prête comme ça à sauter sur moi. L'ours s'est déplacé, le voile de l'ours s'est déplacé. Il a pris la panthère, ils sont battus. Après, la panthère, elle n'a plus bougé.
Elle circulait, elle restait comme ça.
Et je la voyais, et elle restait comme ça, mais t'es pas gentille. Hein. Pas, Et Ellie, là, avec.
À quoi ressemble Ellie alors?
Il est costaud?
Ben, petit. Ben alors, musclé comme je sais pas quoi, là. Il était comme ça. Ah oui, il était.
Alors, comment tu sais que c'était Ellie?
Ben, je l'ai décrit, et le père m'a dit c'est Ellie.
Oui.
Quand j'ai mes visions et tout,
un peu trapu, hein.
je raconte au père ce qui m'est arrivé. Un jour, avec lui, on fait un exorcisme. Il y a une dame, une anglaise, une de nos amies qui nous dit il faut prier pour une ancêtre de la reine d'Angleterre qui était une de mes amies. Une des amies de je sais pas quoi, une ancêtre, il faut prier pour elle parce qu'elle était très méchante, très mauvaise et tout. Alors, tous les deux ont prié pour elle et tout, la nuit. Alors vraiment, je dormais pas, je priais et tout. Tout d'un coup, je vois un plat en fonte, mais les plats en fonte, les cocottes, la cocotte minute, qui se soulève comme ça. devant moi, là, comme ça. Puis elle se met comme ça, et tout à coup, paf, quelqu'un, quelqu'un, le plein en fond tombe par terre. Ah, je dis, mince, ça commence bien. Après, je vois un couteau qui se soulève comme ça, paf, et de quelqu'un de très méchant.
Donc, c'est parfait.
J'appelle le père, et sur lui, il se dérange pas.
Je dors.
Le lendemain, il a vu le plein en fonte par terre et le couteau planté. Hein.
J'ai envie de faire des aventures palpitantes.
Il faut se méfier des Anglais. Hein.
Ah oui, celle-là était méchante. Hein. Celle-là était...
Surtout quand ils sont morts.
C'est une mégère. Bah, elle était pas contente qu'on ait prié pour elle.
Mmh. Ou peut-être le démon qui habitait en elle était pas content.
La peur de
faire face. Je sais pas si c'était le démon, non.
La peur de faire face.
C'est forcément le démon, personne ne peut ne pas être content quand il est.
Comment ?
C'est forcément le démon qui réagit. Même quelqu'un qui est possédé, il a envie d'être délivré.
Alors Marie, on vous attendait et on désirait que vous nous parliez un petit peu. C'est un petit, pas enseignement, c'est pas ça, mais que vous nous parliez un petit peu de Marthe Robin. Ah ouais, petite Marthe, château neuf, enfin je sais pas, parce qu'il y a des tas de choses qui se disent, mais pas dans les... Vous voyez ?
Moi je peux dire juste ce que je sais, hein.
Ouais.
Je ne me rappelle de rien, mais je sais quand même
que... Vous dites que c'est elle qui vous a éduqué.
Oui, ben voilà, on vivait dans l'ombre de Marthe, je suis arrivée à Châtelet.
C'est on vivait, c'est qui on, c'est...
Les élèves de l'école...
Vous étiez plusieurs années, là.
Alors, c'est une vieille histoire dans la famille, parce que ma...
Ah, ça vient de la famille, alors remontez au départ, alors vas-y.
Voilà, j'ai essayé.
Attends, mais tu peux pas parler plus fort si on n'entend pas.
Ah, ça...
J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Maîtriser ma cervelle perdue et parler fort, je vais essayer. Avec la grâce de Dieu. Donc, les foyers, ils ont commencé à peu près en 36, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Marthe, y avait déjà 20 ans ou 25 ans. C'est tout approximatif, les chiffres, avec moi. Hein, donc vous le savez, je ne me prends pas en traître. Et qu'elle souffrait de cette espèce de méningite bizarre et qu'elle souffrait énormément. Il y a un moment, elle a lâché prise et elle a... Ben, elle a donné sa vie au Seigneur. J'ai le texte dans mon classeur. Tiens. Et une prière magnifique, je pourrais vous la dire après. Et à partir de là, bon, ben, elle est entrée dans la passion toutes les semaines, mais elle était dans la paix et dans la joie. Et alors nous, on était... Ma tante est rentrée dans le foyer en 40. Et moi, je suis née en 48. Donc quand j'ai eu... 9 ans, on m'a envoyé avec mon boulot, on est tous passés par le...
C'était une des premières élèves ?
Ah ben non, parce que...
C'était déjà depuis 36 alors, élèves ?
Oui, ça a commencé tout de suite, quoi. C'était la première œuvre que Marthe a faite. Ouais. Alors au début, il y avait 10 élèves de la plaine, des gens bien chrétiens de la plaine qui venaient là, mais après, ça a pris assez vite, quoi. Et ils ont doublé triplé, quadruplé le bâtiment pour accueillir, quoi. On était peut-être 150 à l'époque déjà. Ouais. Il y avait toutes les classes déjà quand je suis entrée là. Voilà, donc moi j'ai commencé en CM2. J'ai loupé une année parce que ma tante a pas, avec mon jumeau, elle a pensé qu'on n'était pas suffisamment bien préparé avec l'école primaire, qu'on avait fait une école à la maison. Donc elle nous a fait redoubler bêtement. Ça a été une année très dure pour moi parce que je suis tombée avec des gamines qui étaient déjà en pension depuis l'âge de 6 ans et qui étaient... Une fois, on s'est crêpé le chignon devant la chambre de Marthe. Je particulièrement. C'était le premier combat, mais après j'ai eu la paix. Voilà, donc j'ai fait toutes mes études là-bas et on allait la voir... régulièrement, par petits groupes de 8-10, le père nous emmenait pour le jeudi, pour porter la communion. Alors on entrait, je sais pas, il y en a beaucoup qui sont allés ou qui n'y sont pas allés dans la chambre de Marthe.
Où ça, vous ?
À Châteauneuf-de-Galore, dans la chambre de Marthe. Vous êtes allés visiter quelques-uns ?
Non. C'est à côté de Châteauneuf,
à Châteauneuf-de-Galore.
C'est pas loin de Nîmes, c'est...
Non, c'est dans la Drôme.
Hein ?
C'est dans la Drôme.
Dans la Drôme.
Oui. Dans la Drôme. Non, mais
moi je connais un endroit où il y a justement, elle est là, à côté d'Avignon, là, à côté de Fontvieille. C'est bien.
Oui, c'est dans ce coin. Il faut monter un petit peu plus haut.
Oui, bah, c'est ça. Je connais, c'est ça. Où il y a un couvent de Carmel.
Non.
Non, pas là, mais un peu loin, il y a un couvent.
Il y a un foyer de charité vers Agen, la Pécède, je crois que c'est peut-être ça. Là. Il y a plusieurs foyers de charité. Châteauneuf de Galore, c'est là où elle habitait.
Oui, c'est le foyer.
Et après,
ah,
il y a des foyers un peu partout.
Oui, c'est à côté de Fontvieille. Moi, je vais à côté de Fontvieille et c'est là où on a trouvé le il y a le tombeau de Marthe.
Non, le tombeau de Marthe.
Ah non,
c'est Saint-Bonnet de Galore parce qu'elle est sur la...
Un village à côté, c'est un bonnet, non, c'est pas vrai.
Pourtant, c'est tout un... on fait tout le tour de l'église et tout. Enfin.
Ah non, c'est pareil complètement. Non, tu confonds, tu dois confondre. Bah, alors, continuons. Donc, voilà que vous avez l'âge de 9 ans et vous rentrez dans l'école fondée par Marthe 10 ans avant, à peu près. Allez.
Alors. Voilà. Et donc nous, on la voyait à ces occasions, quand on allait avec le père, pour la communion, donc on rentrait, ben on était toujours sélectionnés 7-8 parce que la chambre n'est pas très grande et on rentre carrément dans le noir parce que avec la couronne d'épines, etc., comme elle vivait la passion, elle supportait absolument plus la lumière, elle était brûlée par le sang. Et alors elle tenait dans un. Avec la croix toutes les semaines, les jambes étaient repliées sous elle. Donc elle tenait dans un petit lit, comme un fauteuil, quoi. Et le lit est tout petit encore, c'est impressionnant. Voilà, on aurait vu une grande, grande malade. Quand elle est morte, elle devait peser 15 kilos, 20 kilos, parce qu'il n'y avait plus que les os. Et elle avait une voix de petite fille. Elle avait une voix de petite fille, une voix fraîche et c'était ça coulait comme une fontaine. Là, elle était toujours de bonne humeur, toujours gaie, toujours positive. Et elle nous posait des questions comme si elle était à la récré avec nous, quoi. C'était extraordinaire. Quand on savait tout ce qu'elle vivait, voir cette petite voix douce et enjouée. Et c'était un rayon de soleil. Donc, le père lui a apporté la communion, donc il y avait ce moment précieux de la communion, il avait une prière avant, et puis, donc il éclairait, il lui donnait l'hostie, et il éclairait juste la bouche, quoi, même un petit peu en dessous, quoi, parce qu'elle ne supportait pas du tout la lumière, donc il éclairait un petit peu comme ça, là, rapidement, de manière à pouvoir offrir l'hostie, et l'hostie, elle partait toute seule. Aussi, elle partait toute seule dans Marthe, je ne crois pas qu'elle l'a mangée, de toute façon elle ne mangeait rien, elle ne vivait pas non plus. Je crois qu'elle rentrait directement dans son cœur, c'est ce qu'il disait que je mangeais, mais bon, c'est pas théologique hein, ce que je dis. Ouais, donc c'était, voilà, dans la petite lumière de la lampe tamisée, on voyait cette hostie qui filait. Et puis elle entrait, là elle entrait en priant encore un petit peu doucement avec elle, et puis après elle entrait Elle partait, quoi. Elle était dans le Seigneur complètement. Et après, la passion commençait après. Voilà. Après, on s'est
mis. La Satan. Oui, c'était le jeudi.
Donc, c'était le jeudi soir.
Elle faisait la scène. Elle avait la communion que le jeudi.
Oui, une fois par semaine.
D'accord, donc c'est vraiment le...
Nous qui sommes des gourmands.
Pas le dimanche.
Non, juste le jeudi.
Enfin,
une fois par semaine.
Non, elle est dans la passion en fait.
Ben, c'est tout, donc, elle est là,
elle vivait la passion. Hein, ouais. Donc, du vendredi saint, samedi saint, dimanche.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est normal.
Elle ressortait de cette. Parce que la passion, même dans la résurrection, Jésus-Christ, quand il se ressuscite, il allait près. Hein. D'ailleurs, tu peux plonger tes doigts dedans. Hein. Ouais. Tu peux plonger ton avant-bras dans la blessure du cœur. Donc les plaies elles y sont encore une fois qu'il est ressuscité. Donc la passion a un mode d'existence, un mode dans les stigmatisés. dans les stigiens métis de la septième demeure, il y a un mode d'existence
originé dans le...
Alors, qui est... Voilà, au moment de la résurrection, au moment du dimanche de Pâques, elle n'a pas besoin de communier. Justement, c'est la communion du jeudi qui lui fait rentrer là-dedans. C'est très parlant d'ailleurs pour un mystère de Marie, ça.
D'accord. Oui.
Et puis, il lui faut... enfin, à la fin de ces... À la fin de, donc...
On devrait tous communier le jeudi, alors.
En plus.
C'est une anticipation, c'est une...
Nous, on communie trois fois. Je...
Nous, on a des bras cassés, on doit communier tout le temps.
On se grondait par nos prêtres de paroisse, parce que c'est de la grondée.
Et plus les semaines passaient, plus la croix de Jésus était intense, enfin, terrible. Hein?
Oui.
Et donc... il lui fallait encore le lundi, mardi pour s'en remettre, pour sortir un tout petit peu de ce qui était supportable. Hein. Et là, on avait à nouveau le mercredi et le jeudi.
Ah, le mercredi aussi.
Oui, ça commence.
C'est le mercredi qu'elle recevait les retraitants.
Voilà, le mercredi et le jeudi.
Mais elle vous connaissait, vous
Ah oui. Oui, moi je crois qu'elle connaissait tout le monde. Je crois qu'elle connaissait tout le monde.
Donc moi j'étais personnelle et tout.
Ah non, on était en petit groupe. Oui. Alors la seule fois où je suis allée exprès faire servir une retraite, parce que j'étais fauchée comme tout, j'étais étudiante, j'étais fauchée comme tout, et je voulais vraiment entre le diplôme d'infirmière et puis le diplôme d'assistante sociale, j'ai fait les deux. Et entre les deux, j'avais envie de partir un an dans un foyer pour servir le Seigneur, quoi. Et donc je me posais cette question, donc j'ai dit bon bah je peux pas me faire une retraite, je suis trop fauchée, mais je vais aller servir une retraite, comme ça je pourrais voir Marthe et lui demander ce qu'elle doit faire. J'y suis allée, il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc on m'a dit, oh mais mon petit c'est pas la peine que tu serves, hein. Tu vas faire la retraite tranquillement, donc le seul billet que j'avais je l'ai mis dans la boîte. Je m'en rappelle, parce que c'est l'époque où on était comme ça. Et quand ça a été le moment d'aller visiter Marthe, bien sûr j'étais inscrite, il y a un membre du foyer qui est venu gentiment me dire « Écoute, toi qui as été élevée ici, qui as tellement vu souvent Marthe, tu ne voudrais pas céder ta place là, à un retraitant, parce qu'elle, elle n'a pas eu l'occasion, tu comprends, c'est important. » Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? À mort dans l'âme, j'ai dit oui. Et après j'ai dit « Franchement Seigneur, tu exagères. Je viens pour l'avoir, pour une fois, je peux l'avoir toute seule. » J'ai dit « Maintenant, il faut que tu te débrouilles pour me dire ce que je dois faire. » Et il s'est très bien débrouillé, je ne suis pas partie. Trois mois après, j'ai rencontré mon Jean. Et l'année d'après, on s'est mariés, et j'ai fini mes études, on s'est mariés. Et voilà, on a eu 5 enfants, on en a été 25. Et tout allait bien, merci Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de... Elle avait un rire extraordinaire. Quand on l'a vu, elle riait. Quoi qu'on lui dise, on est petites choses des petites filles, quoi qu'on lui dise, elle riait aux éclats, ça partait comme une source, là. C'était... On ne peut pas oublier le rire de Marthe. Une joie, c'était... Voilà, toute petite bonne femme. Et quand elle est morte, elle restait ça, hein, les jambes étaient repliées derrière elle, elle était grande comme ça, quoi. 80 cm, hein, presque un bébé, quoi. Toute ratatinée comme une petite momie, plus rien, quoi. Impressionnant, ça. Et alors, deux ou trois fois, ben, j'ai joué ce jeu-là, quand j'ai eu des choses à demander, ben, une fois, je voulais lui écrire une lettre, parce que, pareil, avec Jean, je posais des questions pour un travail, je ne savais pas quoi faire. Et puis, on s'était disputé aussi, je me rappelle, on s'était disputé. Il y avait une petite dispute, la première petite dispute. Il s'était couché sans me dire bonsoir, donc c'était plus la table. Son jeune me marier. Et donc, j'ai écrit une lettre à Marthe en disant, Marthe, il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Bon, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est chez Dieu.
Et puis j'ai dit, bon, alors je vais l'envoyer. Alors, qui est-ce qui est derrière le rideau et qui va lui lire la lettre? Parce qu'évidemment, elle ne lisait pas. Donc, c'était Mademoiselle de Gaulle, un membre du foyer pour rien, un de mes professeurs, qui était derrière, qui lisait toutes les lettres. Naturellement, c'était une tombe. Mais je la connaissais. J'ai dit, oh là là, elle va savoir qu'on est jeunes mariés, notre première dispute. J'ai dit, écoute, Jésus, tu vois avec Marthe, hein, puisque je sais que Marthe, elle peut nous donner des conseils, toi aussi, tu vois avec elle. Et puis, j'envoie pas la lettre. Hein. Donc, elle est toujours dans un de mes cahiers que je faisais à l'époque. Tout s'est très bien résorbé aussi. On a eu la solution, on a eu la réponse. Tout s'est fait dans la paix. Donc, ils étaient bien ensemble, tous les deux, Marthe et Jésus. Pas de soucis. C'est une alliance qui fonctionnait bien. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont vu et qui ont des choses plus intéressantes que moi à dire.
Moi, oui, je l'ai vu, oui. Oui, je l'ai vu. On a parlé. C'est vrai,
elle avait une voix de petite fille.
C'est ce qui est le plus frappant, c'est la voix.
Comme un pinceau, c'était extraordinaire.
Ça, la voix, c'est ce qu'il y a de plus...
Vous pouvez imiter, non,
cette voix?
Non, ça, là, je peux pas imiter. Mais... Non, là, je peux pas imiter. Mais là, tu entends cette voix, tu entends ça. De quoi, d'équivalent, comme commotion, ça te fait d'entendre cette voix, c'est. Tu es désarmé, quoi. Tu es liquéfié dans uniquement la voix, peu importe ce qu'elle dit, finalement. C'est vrai, c'est un peu ça, hein. D'équivalent, c'était une apparition de la Vierge à Carabandal et les petites répétaient je vous salue Marie. La Vierge leur apprenait à dire je vous salue Marie. Elles étaient là comme ça et elles reculaient comme ça en disant je vous salue Marie. Et la Vierge Marie, la Vierge disait dans un souffle, les petites étaient là, la Vierge était là et elle reculait comme ça. La Vierge, non. C'est je vous salue. Alors, en espagnol évidemment. Mm-hmm. Donc on entend la voix de la petite qui dit en même temps. Quoi, pour la Vierge la reprenait, et puis elle disait voilà, elle vous dit en même temps que moi. Et donc il y a un décalage d'une seconde à peu près entre la Vierge et les filles. Et alors, quand on entend la voix de Conchita, c'était Conchita, qui répète. En extase, en ravissement, je vous salue Marie, là je reconnais que, voilà, on a quelque chose d'équivalent, une commotion, ça te fait la première fois que j'ai entendu une chose, ça, j'étais obligé de m'asseoir, ouf, j'étais obligé de m'asseoir, parce que ça, je l'ai entendu en enregistrement, d'ailleurs quand on décode cette bande, je me rappelle qu'on décodait cette bande, on entendait, dans un souffle, on entendait, le souffle, la Sainte Vierge, on l'entendait elle, mais en fait on l'entendait pas. Mais, en tout cas, ça,
on le sentait.
Si, il y avait. On savait que c'était ce qu'il allait dire tout de suite après, donc, quelque part. Mais là, on l'entendait tout à fait dans la voix de la petite, disons. Voilà, c'est ça. Hein. Et alors là, c'est la voix, là, hein, la voix de Marthe. Mais dans des on comprend hein, ce que il y a dans les cordes vocales du corps humain, il y a quelque chose qui est capable de donner la voix de Dieu, vraiment hein. Et alors là, c'est là que tu vois que la voix de Dieu est d'une clarté, d'une précision, d'une limpidité comme un ruisseau, d'une
cristalline.
Elle va directement au but, elle est fraîche, elle est... C'est Marthe, c'était d'une précision, c'était direct. Ça atteignait directement Elle dit Amen quand le prêtre amène l'hostie. Elle dit Amen et quand elle dit Amen, sa voix est tellement extraordinaire que l'hostie traverse la pièce et arrive jusqu'à sa bouche. Ça, tous les prêtres qui ont amené la communion à Marthe l'ont dit. Moi, je n'étais pas prête, donc je n'ai pas pu... Mais vous l'avez vu de vos yeux, ça. De vos yeux, vous l'avez vu, de petite fille. Vous avez vu cette hostie voler à travers et se poser là. Et Jésus se posait dans le tabernacle de sa bouche. Et là, c'était fini, pendant 4 jours, terminé. Mais Jésus restait présent, là. Comme elle ne prenait même pas...
Elle prenait pas d'eau. Nous, on se demandait si elle n'allait pas directement...
Elle prenait pas d'eau de nourriture, rien du tout. Elle ne pouvait pas déglutir. Donc Jésus aussi restait dans sa bouche. Hein? Et quelquefois, on lui aspergeait un petit peu. Mais ce n'était pas pendant les 4 jours. On aspergeait un petit peu de... Pas, c'est pas une aspergeur, c'est un
vaporisateur.
Voilà. Et donc Jésus était là. Et donc le sang de Jésus coulait. Ah, c'est un oiseau qui en a fait. C'est des rondelles. Maman, elle est balaise, des rondelles.
Hein?
C'est vos amis de cette nuit, non?
Peut-être tes copains.
Il y avait un gros bruit là-dedans hier, déjà. Ça j'ai entendu.
Donc si vous avez...
Voilà ce que disaient, en tout cas, ce que me disaient les pères là-bas. Enfin, ce que nous disaient les pères là-bas. Ils disaient, Jésus reste là et il donne dans l'hostie tout son sang. Voilà. Et voilà, et le démon n'était pas content, bien sûr, hein, il se vengeait. Hein. Puisqu'on parle du démon, les ours et les panthères et les boules dans le dos. La Marthe, hein. Il ne se gênait pas. Hein. Le démon ne se gênait pas avec elle. C'était un tout petit bout de rien, de 20 kilos. Et il la prenait par le cou, là. Et puis, pom, pom, pom. Sur le meuble, là, on voyait, il écrasait la tête, il frappe la tête, frappe la tête, frappe la tête, frappe la tête. Et il y avait des hématomes, hein, et on voit la marque sur le meuble encore, l'endroit où. Et c'est comme ça qu'il l'a tué, d'ailleurs, parce qu'il l'a arraché du lit. Mais là, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ça, c'est encore une autre histoire.
C'est encore mystérieux, c'est encore caché.
Ah oui, elle a été
assassinée.
Par un homme.
Par un homme, un colosse.
Si on peut dire un être humain.
On connaît l'homme.
Si on peut appeler ça un être humain.
On connaît, c'est un être humain.
Ah ben, apparemment, oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça un être humain.
Oui, c'est quelqu'un qui fait partie d'un cercle de triade qui est spécialisé dans la... l'élimination des mystiques. C'est lui qui a assassiné le prêtre stigmatisé là, de Strasbourg. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Pour la petite Sophie, là, il a fait 3 tentatives sur elle. C'est comme ça qu'on sait qu'on ressemble. Mais Marthe, il a fait qu'une tentative et il l'a massacré de l'autre côté de la pièce. Là.
C'est bien difficile.
Et c'est qui cette personne? C'est une personne qui est en France?
Hein?
C'est une personne qui est en France?
Oui, il y a une secte qui est spécialisée là-dedans pour faire disparaître les paratonnerres de Dieu.
Les saints.
Les paratonnerres qui empêchent les châtiments, qui font des actions.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Oui, parce que franchement, c'est vrai qu'on pensait que.
C'est marrant
le père
parce que.
Qui disait qu'elle irait jusqu'à la fin des temps.
Mon père m'avait parlé de ça et lui, il l'avait vu et au moment de ça. Enfin, avant qu'elle soit proclamée vénérable, il m'avait dit. Pas sûr qu'elle le soit parce que la circonstance de sa mort font que pourrait prêter à quelque chose de satanique et de il y a une signature qui n'est pas enfin il y a une double signature quoi
si tu veux étant donné que la sainteté trouve sa signature dans les derniers instants étant donné que personne n'a été témoin de sa la manière dont elle a donné son dernier souffle personne n'a été témoin. Juste le père Philippe est arrivé combien d'heures après, je crois le lendemain. Il est rentré, il a ouvert, pris la clé, il a ouvert, et puis voilà. Et il a entendu sa voix quand même. mais à l'intérieur de lui quand même, pas... Et Marthe disait, il m'a tué. C'est ça qu'elle a dit, il m'a tué.
Comme Jésus était tué, hein.
Il était bouleversé, Père Finet. Parce qu'il avait laissé sa clé, la clé de la porte de la chambre de Marthe sur son bureau. Là, à Châteauneuf, dans le foyer.
Il n'y a pas eu de fraction. Hein,
non, mais c'est facile.
C'était pas encore fait faire non plus, j'imagine.
Et donc, cette clé, c'est vrai que bon. Donc, le type, il a. C'est pas difficile quand tu fais un. Quand tu fais un bon. Voilà, et ben, il a pris. Il a eu la clé, quoi. Donc, il est rentré, puis il est ressorti.
Il a été arrêté?
Jamais! Jamais, jamais, même s'il était pris sur...
Il y a eu une enquête,
même si tu... Mais bien sûr que
non. Il n'y a pas eu d'enquête.
De toute façon, les seigneurs l'ont permis, puisque...
Mais au contraire, ils sont couverts, ces gars. Ils sont couverts
immédiatement. La femme est massacrée,
mais ils sont ouverts, ils sont couverts immédiatement.
Mais d'accord, je suis d'accord, mais quand même...
Attends, un stigmatisé, il est supprimé. C'est le soulagement de toute la République.
Et d'une partie de la hiérarchie.
Et une partie de la prostituée sur... Avec la coupe de Chicoutimi. Oui, Marthe, oui, Marthe.
Moi, je peux donner un petit témoignage.
Voilà, parce que vous aussi, oui. Voilà, oui. Enfin, on attendait que vous osassiez.
C'était au début de notre conversion avec mon mari, et ma mère avait fait une retraite à Châteauneuf, donc elle nous avait vivement conseillé d'y aller. Donc on y a été après le baptême de Joachim, notre fils, qui avait 3 ans, c'est Bertrand qui l'avait fait. Et on est parti pour la Toussaint. Et je me disais, mon Dieu, Frédéric, mon mari, je me disais, mon Dieu, pour que ça se passe bien, parce qu'il venait juste de retrouver Dieu, il avait été élevé par les Jésuites. À Saint-Lys, tout ça, mais en fait c'était un peu loin. Elle était juste
à Saint-Lys?
Oui.
Mais c'était les maristes.
Ah ben, les maristes, c'est pas pris. Ça, c'était les maristes. Alors Saint-Lys, c'est les maristes, mais c'était le primaire, et après il a été chez les jésuites. Je me rappelle plus du nom.
D'accord.
C'est de Paris. Et donc il avait quand même pris refuge chez les Tibétains, tout ça. Et j'avais un peu peur parce qu'on nous avait dit que chez Marthe, les enfants étaient séparés des parents et nous, on n'était pas mariés, donc je ne savais pas ce qu'on allait faire de nous. Finalement, ils nous ont donné une chambre pour tous les deux. Donc, de toute façon, on vivait dans la chasteté hein, depuis qu'on savait que ce n'était pas bien. Et en plus, Joachim, notre enfant, était dans un berceau près de notre lit. C'était parfait pour Frédéric. Et après, on a eu le père Van Ouren, c'est un Hollandais, et c'était vraiment un enseignement extraordinaire. Il nous parlait du Saint-Esprit, qu'il fallait le goûter, que c'était très beau. Et alors, on était à table avec tous des prêtres de l'Est, de Pologne, tout ça, donc on était super gâtés au point de vue nourriture. Et, mon Dieu, parce que il y avait le rideau de fer à ce moment-là. C'était en 60, c'est pas le chiffre, c'est comme ça. Et c'était juste avant, c'était à la Toussaint, avant la mort de Marthe. Donc nous on s'est dit tout ce monde qui veut voir Marthe. Et bon, il y en a trop, tout ça, bon on ne va pas. Et le père Fini est venu, on était à table, il a dit Marthe aime beaucoup les enfants, elle serait très heureuse de voir les enfants et les parents. Enfin les parents et les enfants. On était deux familles. Alors, je crois qu'il y en a un qui était un ancien franc-maçon, qui passe qui avait écrit des livres, qui avait une petite fille de l'âge de Joachim. Donc, bon, on a dit si Marthe demande, on y va, quoi. Et on y a été. Et on l'a vu tous les trois avec Joachim. Alors, bon, moi, ce que je sais, c'est que je pense qu'il y a une chose qui est rentrée aux béatitudes. Et là, on lui a dit non, 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 non. Et c'est très bien là où vous êtes, restez-y. On avait des chèvres à l'époque, et des animaux. Et on lui a dit il faut s'entraider entre eux. Et alors, donc, on a attendu un an pour se marier, enfin, pour faire la préparation au mariage avec les enfants. Et on s'est mariés pour la Saint-Gaston. Quand j'ai vu la Saint-Gaston, vraiment, je ne peux pas le dire à Bertrand, parce qu'il est dans une paroisse, il ne peut pas choisir ses jours. J'ai rien dit. Et le soir, on devait aller au foyer de charité dans l'Aude, dans la montagne de Saint-Denis. Et après, je me suis aperçue que c'était premier anniversaire, donc c'était un an après Marc, pardon, donc le premier anniversaire de la mort de Marc. C'est vraiment un cadeau, ça. Et voilà, donc,
Alors, vous n'avez pas dit si vous êtes rentré dans la chambre de Marthe pour avoir un échange avec elle, vous ne l'avez pas dit?
Oui, puisque c'était elle qui
m'a dit. Oui, mais d'accord, mais comme vous ne l'avez pas dit, je vous propose de le dire.
Voilà. Bon, donc on a eu le droit d'aller à la chambre de Marthe,
ouais.
On est dans la chambre de Marthe,
ouais.
Joachim était très impressionné parce que c'était dans le noir, et elle nous a parlé, elle nous a dit des choses, moi elle m'a dit que je l'avais des trucs. Elle m'a dit, ne faites pas attention, donc voilà. Et c'est là qu'elle nous a dit, non, c'est très bien que vous restiez dans la montagne, que vous aidiez les animaux, avec d'autres personnes. Et nous a dit, c'est Antoine qui était au Béatitude, qui après est parti en Afrique. Et nous a dit, c'est ce qu'ils font à la ferme à Corde. Voilà, du moins j'ai que ça comme souvenir, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas noté et tout. Ce que je sais, c'est que nous avons une énorme grâce. Et là, je suis retournée avec Sylvie le 6 février pour remercier Marc.
Elle est morte le 6 février ?
Je ne me trompe pas.
Oui. 81. Je me suis mariée
en 82.
J'ai eu une fille le 3. Je ne sais pas pourquoi, Marc, elle m'a toujours plu. Si vous allez à Chalonnette maintenant, ils ont tout arrangé la maison, donc, etc., tout ce qui était la ferme, là, c'est plus en ferme. Et il y a un lieu où on passe des vidéos,
on peut entendre ça.
C'est toute une histoire, et puis il y a des moments forts, et on entend sa voix, c'est très émouvant.
Mon corps d'attente, c'est de pouvoir rentrer dans la chambre, parce que je pense que bientôt on ne pourra plus rentrer dans la chambre, ou sûrement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'ils vont.
Ça permet.
Je ne sais pas. Ouais. On a encore la chance de pouvoir rentrer dans la chambre et de s'asseoir au pied du lit, de pouvoir être dans le fauteuil de Marie. On a encore cette chance de pouvoir rentrer dans la chambre et d'être là avec elle. Mais je pense que bientôt, ils vont nous couper, ils vont nous couper.
Alors un jour, le père Finet rentre dans la chambre. C'était après les mardis, quelque chose comme ça, il ouvre. Personne n'était rentré, c'est fermé à clé. Hein. Mm-hmm. Bon, 4-5 jours, tout était fermé, personne ne rentrait dans la chambre. Mm-hmm. Il rentre dans la chambre, et puis, il parle avec Marthe, alors, Marthe, bon, il joue son rôle de papa, et puis il voit sur le lit un livre. Mais il dit, mais Marthe, c'est qui de ce qui vient ce livre? Il dit, c'est la Sainte Vierge qui nous l'a laissé. C'est la Sainte Vierge qui nous l'a laissé là. Et ce livre, c'est la c'est le secret de Marie, de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. Et ce livre, il faudrait raconter toute une histoire sur ce livre. Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. De Marie en France.
C'est son héros.
C'est le grand porte-parole de la voix de la Sainte Vierge sur le royaume de France. À part Saint Bernard, je ne vois pas, mais Saint Bernard, c'était vraiment la voix de la Sainte Vierge, c'est vrai. Mais il ne parlait pas d'elle. Enfin, il n'a pas fait. Il n'a pas donné une spiritualité. Il a donné la règle des cisterciens, si on peut dire. Encore que la règle s'est effacée. Il a fait passer devant la règle de Saint-Benoît. Saint-Bernard était un très 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 grand instrument apostolique de l'Immaculée, de la Vierge, c'est vrai. Mais Saint-Louis-Marie de Montfort, il a donné le secret de Marie. Le secret. Et bon, Dieu sait qu'il a été persécuté par les congrégations, les évêques, machin. Il a été viré 23 fois. 23 fois, on lui a dit, hop, vous sortez d'ici. On ne va plus vous voir sur ce diocèse. On ne va plus vous voir sur ce
truc. Ah, t'as combien ?
Il paraît que c'est bien. Moi, l'autre jour, j'ai été là-bas. Pour la première fois, je vois sa statue là-bas, là où il est, là. Enfin, en Bretagne.
En Bretagne.
C'est une statue relativement grande. Et je dis, tiens, regarde, ah, c'est beau, c'est la première fois que je te rencontre, dis donc. Elle va aller dans, hé, hey, eh ben, je t'ai dépassé, moi j'en suis à 25. Et depuis, j'ai été viré deux fois encore, c'est 28. Je dépasse largement, j'ai plusieurs coudées d'avance sur
lui.
Et là, ici, on est là, mais c'est un secret, personne ne le dira. On est en train de nous demander de
ça fait 28,
c'est bon. Oh, le Père Patrick
est recherché.
Hein ?
Oh, le Père Patrick est recherché.
Il est chassé.
Oui, mais c'est pas ça, je parle pas de ça. On voit ce livre sur le lit de Marthe Robin. Et Saint-Louis-Marie de Montfort, il écrivait des poèmes. Il a expliqué comment on rentre dans la sagesse de la croix. C'est ça le secret de Marie. Donc la sagesse de la croix, c'est presque l'équivalent du flamme d'amour de Saint Jean de la Croix. Hein. Mais avec tout autre, quoi. Et puis il expliquait sagesse de la croix et puis consécration totale à Marie. Ça scandalisait un peu, ça. Vous avez tous entendu parler, moi, quand j'étais enfant, et quand j'étais jeune, et puis quand j'étais début d'adulte, tu parlais de l'esclavage à Marie, tous les prêtres sans exception en France te disaient, mais c'est quoi cette mariolatrie, c'est quoi, c'est diabolique. Pourquoi est-ce que vous dites des choses parce que vous exagérez? C'est l'époque où on prenait des lassos, on prenait les statues de la Vierge, on était tombé par terre dans toutes les paroisses de France. Tous les évêques ont demandé qu'à chaque fois une statue était couronnée Marie-Reine, on arrachait les couronnes de toutes les statues de toutes les églises de France. C'était cette époque-là, parce qu'il ne fallait pas idolâtrer Marie, c'était la fausse religion, etc. Donc on a vécu quand même 40 ans terribles.
C'est le virus des protestants.
Voilà, et donc à l'époque, Saint-Louis-Marie de Montfort aussi, quelque part, c'était le premier à dire, mais voilà, il faut rentrer dans l'esclavage, la consécration totale à Marie. Et il a donné pour ça, sans doute, il s'est inspiré un petit livret quoi, qui s'appelle Le secret de Marie. Et ce secret de Marie était tellement... tellement inhabituel que du coup on ne l'a pas diffusé à sa mort, on l'a mis dans son tombeau, on l'a mis dans son cercueil. Et c'est la Vierge qui a été chercher ce livre, l'a sorti du tombeau et l'a posé sur le lit de Marthe. Et depuis, toutes les retraites, à chaque fois il était arrêté de certaines de Galore, sont toujours basées sur le secret de Marie de Saint-Louis, Marie de Montfort. N'est-ce pas vrai?
Absolument.
Hein?
Absolument. Mais moi, je ne savais pas si vous aviez parce qu'on a baigné là-dedans.
Moi, j'adore ce genre d'anecdote que je suis en train de vous dire. Ce genre d'anecdote, j'adore. Je trouve ça trop marrant. C'est comme le cœur de Jeanne d'Arc, toujours vivant, qui palpite. Je trouve ça génial. Voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas dire. Très, très mal vu, hein, de raconter des trucs pareils. Enfin, c'est quand même, pour moi, des jalons très intéressants, très forts. Hein, c'est comme la fameuse, quand tu vois Anne-Catherine et Aymeric, qui te parle de cette petite boule d'amande de lumière palpitante et vivante. Hein, que Dieu fait pénétrer à l'intérieur d'Adam, le met dans la torpeur, et quand il ouvre, il sort Ève. Et cette petite bénédiction atomique, responsable, surnaturelle, divine, à l'état pur ou presque, mais incarnée, va circuler comme ça dans toute l'histoire, cette petite boule de bénédiction. C'est elle qui va se retrouver ici, dans le côté de Abraham.
Jusqu'à Joachim.
Porté par Melchisédek aussi, quelque part, qui fait décolliner pour faire la fondation de Jérusalem. Combien d'années avant que Jérusalem reste avec des murs. Et elle se retrouve ici dans le côté. Il fait du Christ ouvert, hein, donc cette entrée-là, et cette bénédiction. bénédiction qu'il a donnée ensuite à Isaac. Isaac, pareil, il l'a reçu là. Il l'a donné à Jacob. Jacob l'a reçu là. C'est pas parti sur le jumeau. Ésaü, c'est parti sur le jumeau. Israël, sur le jumeau. Jacob. Et cette petite boule là, extraordinaire qui s'est retrouvée, il s'est retrouvé comme une bénédiction en Égypte. A été conservé et déposé dans le tombeau de Joseph, vous savez ça. Le tombeau de Joseph a été recouvert d'un lac. Ils sont restés longtemps, les enfants d'Israël, en Égypte avant que Moïse n'arrive. Je crois, sauf erreur, ceux qui connaissent mieux les chiffres que moi, c'est à peu près 4 siècles. Hein. Et oui, parce qu'entre Abraham et Moïse, il y a quand même... 6 siècles hein, facilement. Hein. Donc ils sont restés très longtemps en Égypte. Ils sont restés très, très, très longtemps. Et donc le tombeau de Joseph est resté avec cette bénédiction. C'était la prémisse de l'Arche d'Alliance, quelque part, le tombeau de Joseph. Très intéressant. Avec cette bénédiction-là, vivante, palpitante, lumineuse. Ça fait partie des choses qui font partie de la sagesse mystique transmise comme ça du fond des âges dans la montagne de Sion. Hein? Et si vous voilà, c'est extraordinairement agréable à lire, c'est pas dans Maria Valtanta que vous le trouverez, mais dans Anne-Catherine Emmerich, Les Mystères de l'Ancienne Alliance. Ça, je recommande à quelqu'un qui n'a jamais lu Les Mystères de l'Ancienne Alliance d'Anne-Catherine Emmerich, je serais vraiment désolé.
Vous savez qu'il n'est plus édité, ce bouquin.
Hein? Hein?
Il n'est plus édité.
Oui, il n'est plus édité, il est dans Catholique du Net.
Ouais, en entier ou...
Il est dans Catholique du Net, en entier.
Ouais. 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 Moi je l'ai, mais.
Moi aussi.
Chez Saint-Michel dans les bouquins.
Et alors, cette petite boule de bénédiction qui est dans Saint-Joseph, tu vois, pendant 444 ans, et qui repart avec le fils d'Israël et Moïse jusqu'en terre. Et de là, seulement Sinaï, l'arche d'alliance est construite. Hein. Bâti voilà, pour recevoir cette petite bénédiction dedans, avec les tables de la loi, avec le bâton de Moïse, avec, bref, mais enfin, cette arche d'alliance, elle est là, et la prémisse du temple. Et puis après cette petite bénédiction, ben, elle va être portée, transplantée, enfoncée par la médiation. Vous vous rappelez de ça, faut voir, Catherine Brick, c'est absolument extraordinaire pour ça. Dans le père de Jean-Baptiste. Au moment du Yosemite, en étant trempé préalablement dans le oui de Marie en sa sponsorité avec Saint Joseph. Et ça a pénétré comme ça. Et ça a permis une fécondité dans la chair et dans le sang d'une sponsorité d'infinité, surnaturellement parlant. Et ça a permis que Jean-Baptiste soit conçu. Jean-Baptiste a été conçu en raison de la fécondité incarnée dans la chair du mariage de Marie et Joseph. Ça s'est passé dans la même semaine. C'est au moment du mariage de Marie et Joseph que l'ange Gabriel est apparu à Zacharie. Et cette petite boule de bénédiction, etc. C'est ce parcours, cette bénédiction du côté qui finalement va faire quelque part dans l'incarnation et la consécration. Le sacerdoce de Jean en Marie pour permettre l'Eucharistie, quoi. Ce que dit saint Thomas d'Aquin. Quand Jésus fait la scène, il intègre tout ça. Sans le sacrement de prêtre, de l'ordre, il n'y a pas de sacrement de l'Eucharistie. C'est pour ça que le Concile de Trente, et puis... Enfin, saint Thomas d'Aquin, tout simplement, la doctrine de l'Église, bah, dit voilà, quand tu dis ceci, mon corps. Il le dit en même temps, il dit d'abord, faites ceci en mémoire de moi. Il dit en même temps, c'est en même temps, il dit en même temps la consécration et en même temps la production du caractère sacerdotal de Johannique et apostolique et dans les apôtres. Et il en... Ça, c'est la puissance sacramentelle. Elle est actuée au moment où il se la croit et qui dit à Marie d'aller se féconder à l'intérieur et de féconder ce sacerdoce-là dans Jean. À ce moment-là, l'Eucharistie prend toute sa puissance et il peut rentrer dans le grand sabbat. Alors, il s'arrache de lui-même. Et ça, c'est le parcours, vous voyez, de cette petite amende de bénédiction, palpitante, divine, immaculée, quoi si un... La bénédiction de Dieu, comme si du Bereshit de la création avait échappé cette bénédiction, sortie, tombée comme ça, de l'arbre de la vie, de la fin. Jusque-là, pour faire le parcours. Le parcours du peuple de Dieu. La fameuse bénédiction. C'est pour ça, pratiquement tous les chrétiens, quand ils sont un petit peu... Ils ont une petite boule ici, quoi. Non, mais... Si, faut pas être bagarre, c'est pas grave. Mais si tu y es attentif, quelquefois, si bien sûr, il y a... Ah, il y a quelque chose là. Voilà, Saint François de Sales. Elle avait pris cette grosseur-là. Bah, soyez ces petites choses, hein. C'est vrai. Le petit livre de Saint Louis Marie de Montfort, la Sainte Vierge va chercher dans le tombeau et amène sur le livre de Marie. Quoi, tout ça. C'est moi, ça me plaisait. D'accord. On va me dire, qu'est-ce que c'est que ça depuis la croix de l'Église. D'accord. Je ne suis pas contre. C'est vrai. Mais pour. C'est quand même un secret qui permet d'exister dans le parcours mystique de la montagne de Sion. C'est-à-dire dans les pauvres du peuple de Dieu. Il y a toujours eu des pauvres. Toujours. Il y a toujours eu. Comme Marthe Robin et ceux qui étaient proches d'elle. Comme ça, lui m'a également fort, ce qui était tout proche de lui, faisait ce parcours avec un fond, c'est-à-dire incarné, de signes sensibles d'une bénédiction quasi incréée. Et je crois qu'on peut se permettre de ne pas mépriser, bien sûr, ce qui se passe sur les montagnes de la Jérusalem, mais si on rentre en même temps dans la montagne de Sion, c'est-à-dire dans le secret de Marie, là, à ce moment-là, je trouve, moi personnellement, je trouve qu'on a quelque chose qui est très stabilisant. Dès que j'ai su que Marthe existait, dès que j'avais autorisé à le faire, dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé. Immédiatement, tu te rends compte? Je suis allé tout de suite. Tout de suite, immédiatement. Mais c'était des retraites. La première retraite. Je l'ai vu à ma deuxième retraite, je ne me rappelle plus. La retraite où je l'ai vu, en tout cas, on était au moins 500, 480, je crois. 480 retraites, c'est énorme. Et comme elle ne pouvait pas en voir, comme expliquait Marie tout à l'heure, qu'elle ne pouvait pas voir beaucoup plus que... Au maximum, en pressant bien la pauvre, il faut en recevoir une trentaine, quarantaine. Un à un. Et donc, c'était un moins de 0,8%. Il y a très peu qu'il pouvait aller la voir. Eh bien, on y allait, bien sûr. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est une très très bonne
initiative.
Initiative. Hop.
Allez, un peu d'eau. Thérèse Neumann, est-ce que vous connaissez des choses?
Oui, mais j'ai jamais causé avec elle.
Non.
Thérèse Neumann.
Vous êtes extraordinaire aussi, quand même.
Bah, oui, bien sûr. Il n'y a pas un seul de... Il n'y a pas un seul membre vivant de l'Église de Jésus vivant qui ne soit pas complètement extraordinaire. C'est vrai.
Comment elle s'appelle?
Thérèse Neumann, oui, Thérèse Neumann.
Et donc ce petit haricot,
cette petite boule de lumière,
hein, il va jusqu'au
grand toujours monarque. Présent.
Et ben, il trouve son accomplissement dans le
grand monarque. Elle est fondue dans le royaume eucharistique lui-même.
Est-ce qu'il trouve
elle est désormais fondue dans le royaume eucharistique.
D'accord.
Et quand la prière des Coptes dit, voilà, que je puisse pénétrer, je ne veux pas, je ne veux pas du PC de Sutage, je ne veux pas du triple reniement de pierre. Je veux comme... Je veux rentrer dans le royaume de la bénédiction, de ton royaume de vie, dans son accomplissement.
Allez.
Et son royaume entier, et ça, pour que je puisse te dire ce que tu Jean, Jean, il dit, voilà, Jésus dit, mais moi, s'il me plaît, puis s'il le désire, qu'il demeure jusqu'à la fin. Il dit ça à Saint-Pierre. Ce royaume de vie, c'est pas lui dans un royaume eucharistique. C'est la semence du royaume de vie, de la
femme
eucharistique. Royaume d'humilité, de tout ça. On n'a jamais vu réapparaître comme ça à l'état. En l'état.
Ça allait.
J'allais dire.
Mais la conséquence.
Messianique.
La conséquence en masse. Encore plus, d'une certaine manière, ouvert à tous, c'est un peu l'équivalent.
Toujours.
Pas un équivalent, mais c'est par analogie, c'est un petit peu la même chose.
C'est quand même très très parlant de dire que ce n'est pas. Au moment où le ciel l'a donné à la terre, c'est-à-dire à l'époque de Saint Louis-Marc de Montfort, mais c'est après sa canonisation, premièrement, et deuxièmement, après que la Sainte Vierge l'ait déterré de son cercueil pour le mettre sur le lit de Marthe. Là, on a pu le lire. Et on a pu le répandre. Donc c'est seulement à partir de ce moment-là que le secret de Marie de Saint Louis-Marc de Montfort a pu se diffuser à partir de la France dans le monde entier. Alors, à quelle date? 1947, je crois. Je ne sais plus.
En tout cas, Marthe, c'est... elle est née 111 ans, jour pour jour, avant l'élection du pape François. 13 mars.
Alors ça, c'est sûr que ça c'est une signature, François, c'est une signature de Marthe.
Quel rapport qu'est-ce que cette signature
C'est le nard, c'est le nard, c'est le sépulcre.
Allez, je vais t'expliquer. Répète pourquoi le pape François est une signature de Marthe.
C'est lui déjà qui... Pourquoi? Parce que il est... Il
d'abord la date. Renouvelle la date, il n'a pas entendu.
Il a été élu le 13 mars 2013. Tu remontes 111 ans, jour pour jour, tu tombes sur le 13 mars 1906, c'est la naissance de Marthe Robin. C'est lui qui la proclame vénérable. Mais c'est pas seulement, c'est aussi la spiritualité sur le nard, du sépulcre.
C'est la spiritualité du nard qui est à l'origine de l'Immaculée Conception en Joseph.
D'accord, ok.
C'est de Joseph.
D'accord. Oui, là, d'accord.
Là, t'as le secret du pape François, là. Et crois-moi, il va pas le proclamer sur les toits. Et pourtant, il fait un blason pour dire c'est ça.
Il a le nard sur son blason et l'Immaculée Conception.
Sur son blason, c'est explicite. Pour ceux qui veulent bien lire le blason.
Pape François, c'est sans...
Donc, ok. Enfin, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris au moins un truc.
T'as compris au moins un truc. Moi qui n'ai toujours pas compris. Puis moi, est-ce que tu as compris qu'on passe? Ça peut nous éclairer un peu.
Non, mais...
Ah, vas-y. Qu'est-ce que tu viens de comprendre? Allez, sors-le tant que c'est frais. Non, rajoute pas. Juste ce que tu as compris.
Ah ouais. Alors, le pape François est élu 111 ans après la naissance de Marthe Robin.
Jour pour jour.
Jour pour jour.
111, tu sais ce que ça veut dire?
Non. Voilà, c'est ça qui est probablement intéressant.
Allez, Joseph, sens.
C'est la première attitude de l'homme face à Dieu, c'est l'attitude de Saint Michel Archange, qui se met dans une disposition d'adoration.
Quand Saint Michel Archange découvre que c'est une humanité vivante dans la nature humaine, dans l'union hypostatique du Verbe de Dieu, qui est la porte d'entrée, il rentre ici englouti, il inscrit dans l'humanité la mission de l'humanité, dans l'adoration séraphique de Dieu à travers le Christ Jésus notre Seigneur, c'est 111.
C'est Louis du monde angélique qui a entraîné.
C'est Louis du monde angélique lorsqu'il rentre dans la toute petitesse de l'humanité commençante du Verbe de Dieu dans son union hypostatique.
D'accord.
Ça, c'est 111. Voilà comment tu traduis en théologie biblique rabbinique 111.
D'accord.
D'accord.
Et aussi les 111 papes de Malachie. Hein.
Ah ben c'est à cause de ça que, à partir d'un certain moment, oui, tout à fait, il y a eu, après, à partir du 153e pape, 153, le pape, c'est 153, hein, l'Église catholique, 153 passants, dans le bateau du pape. C'est l'évangile de Saint-Jean, chapitre 20, 21, hein, 153. Voilà, voilà. Au bout de 153 papes, il y en a quand même 53 qui sont morts martyrs au départ, pour commencer. Ça, là, il y a eu la révélation des 111 papes suivants.
Prophétie miraculeuse, Saint Bernard.
Et 264e pape.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est qui le 264e pape?
C'est Jean-Paul II.
Alors, 153 plus 111.
153 plus 111,
264.
C'est bien.
Peu importe, donc 111, c'est cette espèce de passage, quoi, de séraphique, qui vient puiser dans l'humanité la plus petite qui soit, c'est-à-dire l'union hypostatique de Jésus, de quoi s'inscrire à la terre du Verbe de Dieu et voir le Père pénétrer dans les profondeurs du Saint-Esprit directement en leurs hypostases. Et ça, c'est à l'instant de la création de la terre que ça se fait. Puisque le monde angélique vient d'être créé. Et ceux qui ne passent pas par le chemin de Saint-Michel Archange, ils restent dans l'espace et le temps et ils habitent notre cosmos. Ils habitent notre espace dans l'univers. Ils préfèrent rester dans le vide de l'univers plutôt que dans le plein de la substance d'amour et de lumière des processions incréées de Dieu. C'est comme ça que se fait la séparation de la lumière et des ténèbres. Oui, excuse-moi, on t'a interrompu, donc 111, donc tu disais...
Voilà, c'est tout. C'est
parfait. Ah, oui.
Tu peux répéter pour les vieilles dames?
Du coup, ça veut dire...
Alors, je vais vous expliquer pourquoi je répète jamais.
Parce que vous êtes incapable de répondre à la même chose.
Il y a beaucoup d'explications, mais il y en a une puisqu'on est sur Martre. Ben, un jour, j'ai entendu ça du père de Malman, je crois. Non, du père Emmanuel. Dis voilà, un jour, Martre a dit au père Finet, c'était pendant la guerre, 39-45.
On n'a pas l'accent là, excusez-moi. Du père Emmanuel.
Oui. Elle dit au père Finet, alors la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Père Finet, il savait faire parler Marthe, hein, ça, voilà. Il était très. Il demandait qu'elle en dise. Hein. Donc il dit, alors bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que la Sainte Vierge. Oui, elle est venue. Ah, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... que le ciel pouvait retourner tous les événements et les changer mais de tout en tout, d'un seul coup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faudrait que le maréchal Pétain, qui est à Vichy, il vienne dans ma chambre et je lui dirai ce qu'il a à faire pour ça. Parce qu'il peut en être un instrument s'il veut. En tout cas, Dieu l'y invite, en tout cas. Mais il faut qu'il soit... Voilà, si je le vois seul à seul, je lui dirai. Alors, le père Finet prévient le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain à Vichy. Bon, il y a Hitler, il y a... Il vaut mieux s'adresser à Marthe qu'à Hitler, donc... sont nés de quand, enfin, la bagnole, ils arrivent à Châteauneuf, le père Finet les amène avec son aide de camp à la chambre de Marthe. Bon, tu vois, quand tu es chef d'état-major, président de la République, tu ne sépares pas de ton aide de camp, pour ça je précise. C'est normal. Et donc, ben, le maréchal Pétain, il rentre dans la maison de Marthe. Il arrive dans la chambre là où il y a le petit foyer, petit machin, tout ça, la commode et tout. Il y a la petite porte qui se trouve un petit peu dans l'entrefait. On ouvre la porte. Bon, le maréchal Pétain rentre dans la chambre. Son aide de camp, ça c'est normal, on comprend. Et puis, il s'approche et il reste une heure avec Marthe. Le père Finet lui discute. Reste tranquillement à dire son chapelet et à méditer le secret de Marie, de Louis, Saint-Louis, Marie-Guillon de Montfort. Et puis, Maréchal Pétain sort au bout d'une heure. Il le ramène à sa voiture, il repart à Vichy. Et il a dit ouf, assez bien alors. Bah, on est sauvé, quoi. On a réussi notre mission là. Il va y avoir un. Ah, il va quand même voir Marthe. Allez, il rentre dans la chambre de Marthe. Et puis, il se met sur le siège là où la Sainte Vierge passe des heures, sans s'arrêter pendant la Passion de Jésus là. Elle passait des dizaines d'heures sur cette chaise. Chaque semaine à Sainte Vierge. Et elle mettait sa main pour atténuer comme une espèce d'anesthésique de tout ça. Les souffrances atroces qui se passaient dans sa chair. Quand le père Finet venait avec un petit peu de coton pour légèrement lui sécher les plaies, comme ça. Et elle disait, oh, on voit bien que c'est pas la Sainte Vierge. Avec le plus de délicatesse possible. Donc avec le plus de délicatesse possible, il dit alors, ça s'est passé comment? C'est bien, vous êtes contente. Et Marthe a répondu, mais j'avais dit qu'ils viennent seuls. Vous entendez sa voix? J'avais dit qu'ils viennent seuls. Quand le ciel parle, il ne parle qu'une fois. Et Moïse a frappé le rocher deux fois. Et donc il n'a pas été autorisé à aller sur la terre promise. On ne se moque pas de Dieu. Ah, excusez-moi, est-ce que vous ne pouvez pas répéter ce que vous venez de dire, là? Quelqu'un qui vient de Dieu, enfin, importe, la voix de Dieu, ne va pas dire deux fois la même chose. Jamais. Si elle répète deux fois la même chose, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. D'ailleurs, c'est un des critères très importants pour un père spirituel quand il a affaire à des mysticaux. Et je trouve ça très intéressant, l'histoire du maréchal Pétain. Mais j'avais dit qu'ils viennent. Mais j'avais dit qu'ils viennent seuls. Dans un novice, quand vous voyez un novice, il faut le répéter deux fois avant qu'il commence à se bouger. Faut pas le garder un noviciat. Hein. Ça veut dire qu'il ne cherche pas Dieu, puis c'est tout. C'est pas Dieu. Tu lui suggères une fois tout de suite, il y va. Sinon, c'est qu'il n'est pas venu pour Dieu. C'est un critère évident et facile à comprendre. Hein? Sur Marthe, on pourrait en faire sortir comme ça de la terre des histoires, des petites étincelles. je ne sais pas qui m'a dit ça, mais dit après, petite Thérèse d'Enfant Jésus a dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et Marthe disait, oh, la coquine a pris la meilleure place, elle m'a laissé. Ouais. Celle de toutes les atrocités. Hein. Et elle dit, moi, je passerai ma vie à être aux portes de l'enfer. Pour que personne n'y entre plus. Je passerai ma vie. Aux portes d'enfer, pour que personne n'y entre plus. Ben, il faudra bien quand même que l'Antichrist y entre. Hein.
Et on le saura.
Mais il ne passera pas par les portes de l'enfer. Il sera obligé de passer par la porte du corps spirituel qui se déchirera en deux pour laisser aspirer par un tartare directement, sans passer par la porte de l'enfer. Et il y aura corps, âme et esprit, ce sera tout vivant. Parce qu'elle s'est mise à la porte d'enfer pour qu'aucune âme n'y pénètre plus. Je trouve ça... Marthe, c'est quand même quelqu'un. Hein. Et on est là avec son pape, 3 en 1, 3 là. C'est beau, ça. Ça veut dire quelque chose, quand même, non? Vous croyez pas?
Elle n'est toujours pas reconnue comme sainte. Elle est vénérable.
Elle a été déclarée vénérable par le pape François I.
Le 7 novembre 2014. Ouais, mais elle n'est pas encore. Vénérable, c'est quoi?
C'est un héritage.
Et entre le 17 novembre 2014, où elle est...
7 novembre.
Hein?
7 novembre
2014. 7 novembre.
Oui, il y a un procès, il y a une instruction à charge et à décharge, il y a les avocats, on appelle les avocats du diable. Et puis, en fait, tu as les vertus héroïques.
Il y a une pleine chambre de documents.
Oui, le dossier est en cours. Et après, il y a béatification s'il y a miracle.
Il faut qu'il y ait un miracle.
Il faut qu'il y ait un miracle, pas forcément. Pour la canonisation, il faut que ce soit le béatifié qui fasse un miracle, d'intercession. Le vénérable, on peut déposer le miracle en même temps qu'on étudie Marthe Robin, avant qu'elle soit vénérable, il y avait déjà un miracle. Et le miracle est en étude en cours en ce moment, depuis 3-2 ans.
Ah d'accord. Du coup, elle peut être béatifiée quasiment.
Là, elle pourra l'être très prochainement.
Si le miracle est reconnu, quoi.
C'est un membre d'un foyer, c'est pour ça que ça a été un peu ralenti. Parce que c'est, je crois que c'est quelqu'un qui était aveugle, ou sourd, ou quelque chose.
Alors, tout à l'heure, j'ai compris, vous parliez de Marthe Robin. Je croyais que vous parliez de Marthe, Sainte Marthe. La sœur de...
Ah, Marthe Arbignon, oui, oui, à Tarascon.
C'est pour ça que j'ai confondu...
Tarascon, oui, oui, non, c'est de... pas la même, non.
La sœur de Marie.
Et de la c'est pour ça que je parlais de Tarascon.
Oui,
Tarascon, voilà. Foyer. Mais par contre... Ça a été un peu plus long, enfin, ça a été ralenti, c'est ce qu'il disait, mais a priori, ça va passer, ils vont passer toutes les barrières. Il y a les théologiens, les cardinaux, enfin, les médecins, les théologiens et les cardinaux.
Ah, ça doit failliter, là, quand même.
Enfin, c'est 7-7-7 à chaque fois.
De Rampin pas sur le dossier.
Voilà, il a 99 ans, ouais, il va avoir 100 ans au mois d'octobre.
Ouais, mais il est toujours là. Donc, moi j'étais impressionné par Marthe Robin.
Ah bon?
Dans sa chambre, c'est vrai que.
Ah, tu as été dans sa chambre?
Ouais.
Il n'y a pas longtemps.
Bah, c'était avec vous, je crois. Ou avec. C'était Nîmes qui faisait. La paroisse de Nîmes qui faisait un voyage. Et au retour, le prêtre qui était avec nous. Ah ben, oh, vous savez, les démons, ça n'existe pas, le diable n'existe pas. il a foutu en l'air la truc.
Les prêtres non plus.
Et pourtant, il s'occupait des morts. C'est un type qui s'occupait de visiter les malades et tout, et qui s'occupait...
Très bien, il a porté sa pierre dans l'édification vivante du corps mystique, c'est bien. Il s'occupait des pauvres, des malades, des défunts. Tu peux pas être sur tous les fronts, tout le monde n'a pas tous les charismes d'être tous les saints en même temps. Chacun apporte sa pierre.
Ouais, bon, après,
apparemment, il n'avait pas le charisme du miracle des trois éléments avec le monde angélique. Voilà. Mmh. C'est pas son charisme, c'est pas son truc. D'accord, c'est pas grave.
Bah ouais. appareil gravité.
Et il y a une chose que ça m'a déjà échappé au point de ma mémoire, de ma mémoire d'appui, là, me fait défaut dans ce que tu disais hier. Il y avait 1260 ou 90 jours entre octobre prochain et
ah non, c'est vous
et Benoît XVI, c'est ça?
Non, non, ça c'est le moment où vous avez été réduit, entre le moment où vous avez été réduit au silence et la démission de Benoît XVI, il y avait 1290 jours. Mais...
Oui, oui. Ah, dis-donc, alors là, je suis en direct, alors. Alors là, ça, c'est trop fort.
1290 jours, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Enfin, c'est 1260.
C'est 1260.
Oui, c'est 3 ans et demi, bon. Mais hier, là, on a...
Bah là, ça fera 3 ans et demi, le 27 octobre, que Jean-Paul II est canonisé.
Voilà la canonisation de Jean-Paul II. Par François, par le pape François, il canonise. Hein, et trois ans et demi, après 42 mois, après jour pour jour, ça sera
le poids qualitatif
quand
de cette
les astres vont s'aligner. C'est la première fois dans le monde cosmique qu'on va voir la constellation du serpent au pied de la constellation de la Vierge, avec le soleil sous la tête de la constellation de la Vierge, et avec la constellation du lion, qui couronne avec ses 12 étoiles la Vierge, hein, qui écrase le serpent. Tout parfaitement aligné. Voilà. C'est la première fois dans l'histoire cosmique qu'on a cet alignement-là. Ce sera, là, en
octobre 2017.
1260 jours après la canonisation de Jean-Paul II.
Donc on va la voir là,
en octobre.
Oh, ben je vais lâcher Dieu, là.
Ça
va arriver en même temps que la loi de l'enfer, certainement.
Ça va arriver à peu près en même temps que la loi de l'enfer.
Voilà.
Dans la loi d'abomination dans la chambre de l'enfer. Ouais.
Là, il va y avoir des combats, là. Oui.
C'est-à-dire la quatrième mouture qui fait le... qui fait le coupe-circuit, enfin, qui boucle,
on voit la Sainte Vierge qui
boucle
écrase tout, la tête du serpent.
Qui boucle tout ce qui a commencé, l'enfer a commencé, la domination a commencé, mais là, ça y est, le tour est bouclé, ça y est.
Donc on aura... Confirmé
par le...
Dans la chambre de l'enfer, il n'y aura pas un seul catholique dans cette...
On
ne
verra plus de serpent, c'est bon.
On ne voit plus de serpent, c'est là qu'on va le voir, justement.
Bon, parce que là...
On va en avoir plein, là.
Bonjour. Oui, ça c'est... Avec Joseph, on a le...
Non, mais il faut le poids qualitatif. Un jour comme ça, mis au gorgé, on était avec des amis. Et puis il y a le mari d'une soi-disant... Enfin, une femme qui soi-disant avait les paroles de la Sainte Vierge. Et le mari nous dit, on va voir une petite sainte, une petite sœur qui va venir nous voir, elle va absolument nous voir. Alors je vois la fille qui arrive comme ça, et elle s'assoit en face de moi, elle est comme ça, et elle s'assoit en face de moi. Et à ce moment-là, le Seigneur me permet de rentrer dans ses yeux, et je vois un boa, un énorme serpent avec sa truc, avec sa lampe comme ça. Une heure glacée. Je me suis retrouvé glacé. Mais quand je dis glacé, je suis sorti de table, je suis allé dans ma chambre, donc je me suis remis...
Comme un iceberg.
Je me suis mis dans l'église de Medjugorje que j'aime beaucoup, là, avec les anges et tout ça. Enfin, mais ça m'a pris au moins une heure pour que mon corps se dégèle. Enfin, j'avais froid, je tremblais. Je vais voir mes amis, là, et je leur dis, voilà ce qui m'est arrivé. Mais non, la Sainte Vierge vient de me dire que c'est une sœur, elle va venir avec nous en Corse, à Rome, et tout ça. Ah, c'était le début. Je leur avais tout dit.
Et alors, elle est venue quand même?
Non, ils ont continué à l'apprendre.
Ah ouais.
Ils l'ont pris, moi je suis rentré après, en Italie, puis après.
Oui, l'expérience Groenland, c'est bon une fois, hein, mais pas deux.
Quoi?
L'expérience Groenland, ça suffit une fois, oui.
Ça, je peux vous dire qu'il vous glace le truc. Hein. Donc, on aura beaucoup de gens comme ça qui viendront vous voir avec le démon. Là.
C'est l'accusateur. Hein.
Et ce seront nos yeux qui font le combat céleste.
notre âme. Les yeux, c'est la porte de l'âme.
Parce que nos yeux envoient des... comme des lasers. Et dans le combat céleste. Bon, le Père vous expliquera tout ça.
Oui, c'est certainement. C'est la vie contemplative.
Oui, oui.
C'est la vie contemplative. Hein. Parce que quand tu fais dans la vie contemplative, tu laisses déborder et rayonner la foi. Il n'y a plus que Jésus. Hein. Toi, tu n'as disparu. Hein. Il n'y a plus que Dieu. Et donc, face à quelqu'un qui est pris par le bois.
Je suis persuadé qu'il dit ouais, même il y a des endroits où ils ne nous verront pas. On disparaîtra. Enfin, ils passeront à côté de nous.
Oui, parce que c'est aveugle. Ils ne voient qu'à travers le regard du démon. Ça les aveugle. La lumière de Dieu les aveugle. Donc ils ne voient pas.
Non, je sais.
Je fais des prières pour couper, mais.
Pour pas voir.
Parce qu'à un moment donné, il fera nuit. Parce qu'à un moment donné, il fera nuit. Il n'y aura plus d'éclairage. Il y aura plus. Ce sera la nuit. La nuit.
Ça, c'est le genre de thème.
Pendant trois nuits, là. Pendant trois nuits, ce sera.
C'est pas tout de suite, ça. Hein,
oui, c'est pas tout de suite.
Ne nous impatientons pas. Ça, pas.
Le 10e saut.
Ah, oui, oui.
Il sera sous nos pieds le 10e saut.
On n'est pas forcément pressé d'y arriver. Mais plutôt
il faut qu'on anticipe le 6e, comme ça on ouvre le 7e. Et...
Écoutez, il faut qu'on soit à fond dans le 5e saut.
Déjà.
Après, on pourra.
Faut qu'on soit moins saut pour
on pourra s'épanouir dans la préparation du 6e saut. Il sera d'ailleurs pas du tout. Voilà, c'est sûr que ça se termine. De manière un petit peu extraordinaire, hein, parce que la disparition de l'Antéchrist d'un seul coup, tous les coups de butoir de la charité héroïque, quoi, de moins d'Apocalypse, c'est vrai. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr.
On verra Élie, hein. Élie va venir. Hein.
Oui, tout à fait, avec Élie le prophète, c'est vrai.
Et déjà Élie qui est stigmatisé, là,
bah, il va essayer d'arranger la foule, en fait.
Ouais, c'est le char de feu, c'est pas obligé, c'est un autre livre.
Pardon ?
C'est le char de feu. C'est
mieux avec ça, le char. Mais dans mes feux, on voit le père, on voit Élie. Avec son char, et tout, avec la poussière, et on l'attend, et le père
il va essayer après.
Se barre avec Élie.
Ah non, on n'est pas d'accord.
Je suis pas seul quand même.
Ah non, non.
On a le droit de se barrer. À ce moment-là, on a le droit de monter dans la
terre. Non, au contraire, on glisse dans la terre.
Il vient nous rejoindre. Puis il y a même on voit des anges et tout qui descendent, qui viennent avec.
Bon, je sais pas où vous êtes tombé ici, mais vous êtes tombé, je sais pas où, hein.
C'est pas du dingo, non.
Pas
dingo, non.
Faut se mettre en état de grâce, en tout cas. Hein,
parce que ah. N'oubliez pas que ces choses-là ne doivent pas se prendre primo primi, hein.
Oui.
Tu veux un peu d'eau, Catherine?
C'est bon.
Alors, je te fais si tu veux. Oui. On va faire un petit peu parce qu'il y a des délicats. Je vais t'aider à te faire des délicats.
Tu peux y aller.
Ouais. Ah, et là, tu commences à cuire un peu. Là. Peut-être que tu sortes du soleil, je pense.
Oui, faut pas le prendre primo primi, c'est-à-dire que tu dedans.
Encore un petit peu.
D'abord, ça sent la cuisse.
Tu sais pas en mettre trop.
C'est l'union transformante qui compte.
Un petit peu dans les cheveux.
Mais ces jalons.
Bien, il
sont des jalons, j'avais dit.
Non, mais là, faut faire
oui,
ça.
Oui.
Tu commences à cuire.
La tradition formatique vivante à Carnot. Marie. Ah, là, c'est bien un honnête. Ça fait. J'ai parti de ceux qui connaissaient toute cette mystique. Messianique. C'est vrai que ça se transmettait. Ça se transmettait comme Saint Thomas. Ça ne se transmettait pas à tout le monde. Ces secrets-là se transmettaient à quelques-uns en meilleuresse, comme ils disent. Et dans la tradition, on dit que ça se transmettait à une poignée. Vous lisez le cartonnier, vous allez voir à qui comment ça se transmettait comme ça, de génération en génération. C'était des pauvres, on appelle ça les pauvres de Sion. Quand on entend les pauvres de Sion dans la Bible, ça désigne ces gens-là. Ils étaient très attentifs à la parole de Dieu, qui s'appuyait sur l'incarnation du Messie, dans les bénédictions, à la fois rayonnantes, palpitantes, et purement surnaturelles et messianiques, qui traversaient l'histoire du peuple de Dieu. Hein. Dans la Bible, voilà, ça, les pauvres de Sion, les Anawim, mais ça c'est Anawim Sion. Mais quand on lit ça dans la Bible, personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça représente une poignée de gens. À l'époque de Jésus, ça se ramassait sur quelques-uns. Allez, une vingtaine, trentaine de personnes, peut-être, pas plus. À l'époque de oui, mais il y a...
On n'a pas eu. Ouais, je sais.
Et encore, et ça, par contre, ça, c'est quelque chose qui demeure, parce que quand je vois, par exemple, bien sûr, il y a l'Église, il y a les sacrements, il y a ceux qui, d'une manière purement théologale, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, sans rien. Mais en dessous, et en même temps, vous avez en même temps les pauvres de Sion, il y a toute une... C'est un courant, quoi, dont Dieu se sert, et dont le Saint-Père se sert aussi, parce que du coup, le jeu des canonisations aide à ça. Donc, quelque chose qui existait il y a 200 ans, parce que c'est gardé dans une tradition palpitante, et mystique, finalement, mais incarnée, hein, une stigmatisation qui permet à la nature humaine de Jésus de continuer à s'exprimer eucharistiquement dans des états de victime d'amour, chair, corps, sang, âme et esprit, quoi. Hein. Alors à ce moment-là, oui, cette histoire, elle continue. Elle continue à faire son pèlerinage, à donner son noyau eucharistique palpitant, j'allais dire. C'est normal qu'il y ait comme un récepteur et un diffuseur du corps spirituel qui traverse le Bereshit jusqu'à l'accomplissement de la Jérusalem. Donc, normal qu'il y ait un récepteur. Sinon, ce serait une blague.
Ben sinon, il y aurait une déconnexion.
Ben voilà, donc il y a quand même, des...
Une continuité.
Il y a une unité.
Une unité.
Ouais. C'est pour ça qu'on ne méprise pas du tout ça. Et même, c'est réconfortant de savoir. C'est réconfortant de savoir ce qui se passe dans l'Arche d'Alliance. Parce que bien sûr, il ne faut pas le prendre primo-primi. Parce que sur le plan théologal, quand tu célèbres la messe, tu embrasses l'autel. Tu t'introduis, introibo, tu t'introduis, tu cours, tu t'enfonces à l'intérieur de l'autel. Et l'autel, c'est l'Arche d'Alliance. C'est dans le Saint des Saints, tu t'approches. Et quand ça s'ouvre à l'Eucharistie, à la transubstantiation, tu es dans l'Arche d'Alliance. Alors le parfum d'une arche peut s'exprimer et tu peux célébrer la transubstantiation. Et ça, c'est théologal, c'est pas mystique. C'est mystique.
Mais c'est d'abord que...
Mais c'est surnaturel, c'est la foi, l'espérance, la charité qui permet ça. C'est le feu surnaturel, divin, pur de l'amour. Il vient de haut, qui sait si le prêtre, Saint-Jean, quand il célèbre la messe. Alors à ce moment-là, ça embrase l'Immaculée Conception qui en est l'engendrante dans son sacerdoce en acte. Et ça a duré 22 ans quand même, cette plaisanterie. Moi, personnellement, je suis désolé, je suis peut-être pas intellectuellement correct, mais je pense que on ne doit pas mépriser ça. On peut dire le mettre à sa place, d'accord, mais on n'a pas à le mépriser. Parce que c'est quand même porteur d'une révélation incarnée, palpitante, purement surnaturelle quand même. Même si elle n'est pas donnée en partage à tous. Parce que tout le monde n'a pas la même mission. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui vous rentre dedans en disant « Mais arrête avec ça », respectez-le aussi. S'il n'en a pas eu la grâce, respectez-le. Parce qu'il y a autre chose à faire, de très important. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, notre Seigneur, aucun jugement. Et pourquoi il ne comprend pas? Mais enfin, pénible, c'est pas possible, c'est dingue. Et là, pendant 40 ans où tu étais dans la fange, tu comprenais, toi? C'est marrant, on est, les nouveaux convertis sont comme ça. Ils voudraient que tout le monde comprenne ce qu'ils ont compris. Ils ont mis 40 ans à commencer à comprendre le premier. Les nouveaux convertis, c'est ça. C'est des...
Pas plus que 3 lettres.
Ah, c'est vrai, fais attention. Le père Emmanuel, il disait, moi, au moins, c'est depuis la naissance. Donc, ce que je dis a un certain poids.
C'est celui qui était venu, qui faisait les louanges et tout, que le père Emmanuel avait reçu.
Tu l'as connu, toi, le père Emmanuel, jamais?
Je suis avec le
Daniel Ange.
Ah,
Daniel Ange. J'aime bien Daniel Ange. Il vient raconter, là, c'est drôle.
Le pauvre Daniel, j'aime pas raconter cette histoire parce que c'est pas
si,
son...
Elle est belle, elle est marrante. C'est
pas très...
Oh, oui. Elle est drôle.
Ah oui, non, c'est drôle, ça. C'est, c'est pas son honneur. Je lui ai raconté une fois que le père Emmanuel avait raconté... Daniel disait... C'est très déformé, il disait le pauvre Daniel. C'est très déformé quand même ce qu'il dit. Là, c'est vraiment très déformé. Non, parce que Daniel Ange, il a été ermite hein, à la fondation de la Vierge des Pauvres. La Vierge des Pauvres, c'est pendant le Concile, il y a eu, puisque l'Église change maintenant, c'est fini. La hiérarchie, le père abbé, le prieur, le sous-prieur, le machin, obéissant, ta. Non, maintenant, c'est la Jérusalem nouvelle de l'Église nouvelle du Concile. Alors, voilà, ils ont fondé, ils sont mis à une dizaine, ils ont fondé, il y avait Daniel parmi la dizaine, ils ont fondé la Vierge des Pauvres, c'est dans les Landes. Et parmi eux, il y avait le père Arnaud Littkerk, il y avait, je sais pas moi comment, le père qui était ensuite en Ardèche, le père Vissot, c'était une dizaine quoi. Des costauds, hein, des gens qui étaient des colonnes, et ils se sont mis là, et voilà, au lieu qu'il y ait un qui commande et les autres s'alignent, d'une manière univoque, etc. Voilà, maintenant, ça y est, c'est la Jérusalem libre. Et l'unité vient, et la hiérarchie vient de la charité, c'est tout. Et de la communion, et on fait ensemble tout ce que l'un, l'autre et le troisième se communiquent les uns aux autres dans une seule élan. C'est beau. C'est une espèce de kibbutz surnaturel. C'était en même temps que le kibbutz, d'ailleurs. Quand je connais quelqu'un qui, quand elle avait l'âge de 9 ans, elle était voir le père Emmanuel, et le père Emmanuel a dit, moi je veux aller au kibbutz, elle avait 9 ans, elle était venue avec ses parents. Je la connais personnellement, c'est vrai, elle dit, voilà, je veux aller au kibbutz, moi il faut que j'aille au kibbutz. Et les parents disent, mais tais-toi, enfin, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Le père Emmanuel dit, mon Dieu, mais si je pouvais enlever ma bure, j'irais avec vous. J'irais immédiatement au kibbutz avec vous. Alors les parents disent, oh. Ah, c'est pas vrai?
Il est 6 ans quand même.
Hein?
J'avais 16 ans.
Ah, vous aviez 16 ans, pardon.
Non, oui, donc, vous voyez. Je l'ai vu avec la bambine, mais pas...
Vous avez vu le père Emmanuel?
Oui, oui, oui. C'est une filotée du père Emmanuel depuis l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de...
J'ai 9 ans de différence avec ma soeur. Et ma soeur, quand elle est tombée très malade, qu'on a pris la bambine avec le père Emmanuel en 4-4, je devais avoir 9 ans.
Ah, vous voyez? C'est une filotée du père Emmanuel. Quand elle faisait sa crise d'adolescence, elle en faisait voir à ses parents. Je te dis pas le bordel que... Elle a foutu un bordel. Et, hein? Ah, ses parents étaient exaspérés. Alors, ils vont voir le père Emmanuel. Ah, très bien. Dis-moi, moi qui bosse, mais j'enlève ma bure aussi immédiatement. Mais malheureusement, j'ai la bure.
Ils m'ont pas laissé,
oui, mais comme il avait dit ça, il dit, bon, ils ont lâché prise. Ils se sont dégonflés, ils disent c'est pas grave, finalement ils allaient s'en faire, puis finalement vous n'y êtes pas allé, très bien. Et ça a dégonflé la baudruche. Bon, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en même temps que les kibbutz, en même temps, et eh ben voilà, les cathos enfarinés, etc. Mais des colonnes, quoi. Dit, voilà, s'il y a vraiment quelque chose de totalement, un renversement, un déploiement de l'Église à cause du concile. Voilà, on peut être ces éléments quoi, qui vont donner au niveau monastique quelque chose qui correspond au Saint-Esprit, à cette Pentecôte Noël, quoi, à cette civilisation de l'amour, quoi. Mais au niveau donc de l'esprit de virginité, de pauvreté, d'obéissance, quoi, un nouveau mode. Quoi, de... Voilà, et donc Daniel s'est retrouvé avec le père Vissol, le père Arnaud, le père machin, c'était une dizaine. Et Daniel, il excellait, c'était une puissance de travail, mais phénoménale, Daniel. Il était tout le temps à lire les pères de l'Église. Il les a tous lus de A à Z, quoi, avec des notes, etc. C'était, il avait vraiment une puissance de travail. Et, il passait 7 heures par nuit. Il intégrait. Il avait vraiment. C'est pas seulement un charismatico machin. Hein. Non, c'est. Non, il y avait quelque chose, donc il avait son rôle là-dedans. L'autre, c'était, bon, voilà, chacun apportait son truc et tous dirigeaient de cette manière. Voilà. Et ça a été, du coup, des gens sont venus, là-bas, à la Vierge des Bois à Bourikos, là-bas dans les Landes. D'autres sont venus, puis 10, puis 20, puis 30. Et cette fondation d'ermites vivant... comme ça, ensemble, dans un seul élan du renouvellement de l'Église. Pas anarchique du tout, hein. Mais selon un ordre, j'allais dire, nouveau, de charité, de déploiement et de fécondité communautaire, chacun étant dans la grâce qui lui était, où il excellait par la puissance de Dieu.
Il n'y a pas de règle,
non ? Si, la règle c'était ça, c'était que on laissait se déployer les affinités ensemble dans un seul, voilà, dans un seul terreau, dans un seul endroit. Puis après ça a été 30, 40, et on était à 50. Ils ont été, Daniel même a été à ce moment-là, à un moment donné, il a été à... C'est pas à moi de raconter l'histoire de Daniel Ange, mais enfin bon, il a été faire une fondation par exemple avec ça. Il s'est envoyé, ou je sais pas quoi, il y a eu un appel pour qu'il aille au Rwanda, là où il y a eu les Hutus qui se sont massacrés, là. Parce que c'est un pays catholique, c'est le pays le plus catholique du monde, c'était le Rwanda.
Les Américains qui ont envoyé.
C'est le pays le plus catholique du monde. Donc il est allé là-bas, à lui tout seul, Daniel Ange. En l'espace de 6 ans, il y avait 200, 300 ermites de leur fondation qui étaient là, et puis qui allaient sur Bourikos. Et puis d'un seul coup, ça a explosé. D'un seul coup, en l'espace de 3 mois, paf, plus rien. Il en est resté 3 là-bas, 3 ou 4. Ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, voilà, ça s'est arrêté.
En Afrique.
partout, à Bourricos aussi. À Bourricos, ils sont restés à 3 ou 4, même pas. Aussi, 3 ou 4, 4, 5. Donc le père Bissot s'est retrouvé en Ardèche, il a fondé la demeure Notre Père. Il a, Daniel, le père Arnaud, il est allé chez le père Emmanuel à Montmorin. D'ailleurs, c'est en allant chez le père Bissot, je voulais me mettre à son nom, moi, en Ardèche. C'est lui qui m'a dit non, toi, t'es trop bourgeois, t'es trop straight, il faut que tu ailles. C'est des gens qui sont un petit peu dans le voilà dans le classique et tout. Il y a un truc là-bas que Père Emmanuel à Montmorin va là-bas, va voir là-bas. C'est comme ça que c'est comme ça que je suis abouti chez le Père Emmanuel par le Père Vissot. Et chez le Père Emmanuel, il y avait le Père Arnaud qui était l'oncle de Daniel Ange, un ermite mais prodigieux, hein, prodigieux.
Alors, on vous entend,
Donc voilà, tant que Daniel, lui, a, bah, il s'est retrouvé, il a dit, mais tiens, il y a un truc qui commence, là, il y a un truc qui commence, il a été, il s'était fait imposer les mains et il avait reçu la Pentecôte du charismatique, quoi, bon, catholique, bien. Donc, mais c'était avant que ça ne vienne à Paris, vous voyez ça.
Aux États-Unis, hein.
Écoute, je ne peux pas tout te dire parce que je ne sais pas d'accord, tout, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'était juste avant. Et du coup, ça a fait exploser en lui, quelque part, tout ce qu'il avait travaillé, etc. Mais avec l'onction charismatique qui est la sienne, quoi. Et voilà, et puis voilà qu'il s'est dit, mais il n'était pas prêtre, hein, du tout. Hein, il n'était pas prêtre. Hein, c'est à l'époque de Jean-Paul II qu'il avait été fait prêtre, qu'il a été ordonné prêtre. Il a été ordonné prêtre très tardivement, hein, finalement. Et donc voilà qu'il se dit, il faut quand même que la Vierge des Pauvres, c'est fini. Donc il est allé chez le Père Emmanuel. Il est arrivé chez nous, à Montmorin. Et voilà l'histoire de Daniel. Et ça fait partie de ces histoires extraordinaires, quoi. Parce que bon, les gens qui sont passés à Montmorin... On pourrait écrire un livre à plusieurs tomes, hein, des gens qui sont passés à un moment. Alors bon, écoute Daniel, voilà, il y a une cabane de 4 mètres ici. On est d'accord, mais très bien, puisque tu veux vivre pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Si on va te voir, et puis on verra. Voilà. Ça a commencé comme ça. J'ai pas envie de tarder, j'ai pas envie de donner la suite. Si, parce que bon, c'est amusant, d'accord. Okay. Daniel, quelqu'un de très. De tellement touchant, ça. Tellement touchant. Quand il était saisi de manière saisissante, c'est le cas de le dire, hein, par une impulsion divine intérieure, et il n'en pouvait plus avant que ça ne se réalise, quoi. Là, il voulait voir le lever du soleil en allant là-haut, au-dessus de Montmorin, il y a une grande montagne qui s'appelle le Dufre. Ah, est-ce que je peux aller là-haut pour aller voir, pour avoir le coucher du soleil? Oh, j'aimerais tellement voir là-haut que c'est beau. C'est magnifique. Alors le père Emmanuel dit, écoute Daniel, depuis que je suis ici, ceux qui ont voulu aller là-haut, je suis à mon 6e mort. Il y a beaucoup de crevasses. Et après quand on les recherche, il nous faut des jours et des jours pour retrouver les cadavres. Alors écoute Daniel, sois gentil, tu passes par ce chemin-là. Et tu reviens ici avant 19h. Ou avant 20h, je sais plus. Avant 19h. Mais bien sûr, Père Emmanuel, amen. Amen, merci Père Emmanuel. Alléluia. Amen. Amen. Et Daniel, monte par le chemin jusqu'au sommet du Tufre. Il faut dire que c'est extraordinaire ce sommet du Tufre. Au-dessus de Momoa. C'est de l'herbe. C'est beau. Tu vois là-bas dans le fond les Alpes. C'est beau. Il n'y a personne qui habite. Ah, pff. Raisonnable, disons bon. Et puis il dit, oh, ce soleil qui descend, je vais trop vite redescendre, c'est trop beau. Et le Seigneur dit à Daniel Ange, Daniel, Daniel. Alors Daniel répond, oui Seigneur, il faudrait que tu restes encore toute la nuit pour voir l'aurore. Alors, Daniel dit, Seigneur, oui, il faudrait absolument, ça c'est vrai. Il faut absolument que je reste à l'aurore, c'est trop beau. Amen, amen. Ah, oui, mais le Père Emmanuel. Ah, l'obéissance, il n'était pas habitué avec la Vierge des pauvres de Bourikos. Ça portait bien son nom, d'ailleurs, cette fondation de Bourikos.
Bourikos.
Et donc il a réagi à l'impulsion charismatico-amoureuse qui était la sienne, en disant, mais non, je vais obéir au Père Emmanuel, c'est Père Emmanuel, bon. Alors, sauf si c'est vraiment Dieu qui me demande absolument, de manière totalement certaine. Allez, je demande immédiatement, d'ici une minute, trois minutes, il me faut trois signes. Premier signe, il faut que je trouve un endroit où être à l'abri. Avec une couverture, allez. Dans la minute qui suit, allez. Ah, il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un qui aille prévenir le Père Emmanuel. Et puis il faut. Je sais plus quoi que le troisième truc. Ça m'échappe. Mais du même genre.
Quelqu'un qui porte un repas.
Aussitôt qu'il fait cette prière, en disant une fois les trois signes, ces trois signes-là. Il entend des cloches. Et un troupeau arrive avec le berger un petit peu en contrebas, 400 mètres plus bas. Vite, il court, il court, descend. Il va vers le berger. Il dit amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu, quelle splendeur, quel bonheur que je suis content de vous voir et toutes ces brebis, etc. Mais où est-ce que vous allez en par là? Il me dit. Eh bien, moi, je vais vers mon moringon. Goulongongon. Ah bon, con. Ah bon, merveille. Mais vous passez tout là, c'est le Père Emmanuel. Eh oui, c'est là que je passe, c'est le chemin. Allez-y. Ah, ben, je vous fais un petit papier. Vous donnez ça au Père Emmanuel pour le prévenir, parce que normalement, il m'attend avant 19h. Il dit, mais je le mettrai pour le Père Emmanuel. Il n'y a pas de problème. Goulongongon. Amen, amen. Et puis il se tourne un petit peu derrière la poussière des brebis. Et il y avait un abri qui était là, un petit abri. Hein. Et il rentre, il y avait une couverture. Il dit amen, amen. Évidemment, le Père Emmanuel, il n'a pas dormi de la nuit. Il dit pétard, ça va faire mon 8e cadavre. Moi je peux vous dire c'est vrai cadavre parce que moi j'en ai trouvé un cadavre. Après 11 heures de recherche. Mais en fait, le berger était passé en contrebas. Il y avait la panetière qui sert de boîte aux lettres du Père Emmanuel quand on est pressé. Mais Père Emmanuel il est quand même 300 mètres plus haut quoi. Père Emmanuel, à 7h, il n'est pas descendu voir si dans sa panetière, Daniel Ange n'avait pas laissé un mot, évidemment. Donc, pas de Daniel Ange, pas de Daniel Ange, pas de Daniel Ange à 29h. Il dit, mais c'est pas possible, pas possible. Mais quel crétin, mais quel crétin, mais quel couillon.
Mais quel bécasse, mais qui m'a fort foutu un salopard pareil.
Et arrive le lendemain matin après l'aurore, la gueule enfarinée, le brave Daniel. Il déboule après la messe. C'est le père Emmanuel. Amen, amen. Oh Dieu.
Il a donné des
cartes. Écoute, Daniel, on ne s'était pas entendu ensemble sur.
Il faut dire que c'était un peu après Pâques. C'était un peu après Pâques. Il était arrivé après le temps pascal, enfin une semaine après Pâques. Et il y avait de la Pentecôte, tout ça. Donc pour lui, c'était un délire d'être à Notre-Dame de la Pentecôte, Daniel. Je le père Emmanuel. Et donc la deuxième semaine après Pâques, il rentre dans le... Il était là, c'était quelques jours avant, son désir d'aller voir le lever du soleil. Ou le coucher du soleil, pardon. À un moment donné, il arrive en cours. Tout frais, quoi, tout merveilleux, tout enfant. Il arrive dans la méthode super Emmanuel, il ouvre la porte super Emmanuel, il dit super Emmanuel, super Emmanuel. Mais Daniel, mais tu as l'air vraiment très joyeux. Amen, Seigneur. Ah oui, mais bien sûr, alléluia, alléluia. Mais il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors Daniel lui dit, Père Emmanuel, alléluia, alléluia, alléluia. Il me dit, alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité, Père Emmanuel, le Christ est ressuscité, alléluia. Alors Père Emmanuel lui a répondu, il a regardé, il a dit, mais Daniel, sérieusement, tu penses que j'étais pas au courant? Et puis il lui fait le coup du soleil, etc. Il dit, mais ton délire, etc., intérieur, tout ce que tu ressens, on n'en a rien à foutre. Écoute, Daniel, nous ici, nous sommes venus pour Dieu. Donc ta place n'est pas ici.
Ouf.
Ah bon?
Ah oui, d'accord.
Okay. Ah, le couperet était tombé.
Ouf.
On est venu pour Dieu, on n'est pas venu pour Charismatico Dingo. Hein. Donc bien sûr, Charismatico Dingo existe, on ne le méprise pas. Mais si c'est ça qui conduit ta vie, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu, c'est tout. Et s'il faut te répéter deux fois avant que tu obéisses, une troisième fois, c'est emmerdant. Donc Marthe, elle nous a appris que, voilà, on dit une fois et on ne répète pas. Si elle a fait répéter une seule fois un message du ciel de la Sainte Vierge, c'était fini. Son ministère sur la terre, Marthe, était terminé. Terminé. Ça, vous voyez, c'est un des petits principes de l'esprit d'obéissance. Un grand principe de l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance évangélique. Saint Placide et Saint Benoît.
Quand on est sur, qu'est-ce qui se passe?
Hein?
Quand on n'entend pas bien.
Mais à travers le micro, moi. À travers le micro.
Non, si, si, n'oubliez pas, c'est une fois ou pas. Oui. Deuxième fois, c'est fini.
Alors, bon, d'accord, on n'est pas à 3 minutes.
Non.
Que veut dire exactement, précisément, le terme, l'adjectif, aquasé? J'ai cherché partout, la nuit aquasée de l'âme, la nuit aquasée. J'ai regardé sur tous les dicos, j'ai pas trouvé. J'ai demandé à Bruno, il m'a dit, oh, ça, c'est une affaire. Mais j'ai rien su de plus, je suis parti en vacances. Donc voilà.
C'est une expression espagnole. Donc, vous prenez un dictionnaire espagnol. quoi sert? C'est comme avertissement. Ça vient de l'espagnol. Afeso. Ça veut pas dire avertissement, attention. Je t'avertis. Non, non, c'est pas ça. La nuit aquasée de l'âme. Lorsque tu es dans la nuit, Dieu est tellement aveuglant. Sa lumière est tellement profonde que tu ne peux le percevoir que si tu vas au-delà de toute lumière créée, même les lumières spirituelles pures. Ça va?
Oui.
Les lumières spirituelles pures ne peuvent pas te permettre de rentrer, de rayonner à l'intérieur pour voir la lumière créée de Dieu. La lumière n'est la lumière de sa nature essentielle, la lumière de ses hypostases, n'en parlons pas, la lumière de son unité, hein, parce qu'il y a un seul Dieu, et même la lumière de ses attributs divins. L'âme humaine est spirituelle, elle est capax dei, à condition, bien sûr, de pouvoir accepter de pénétrer en Dieu en passant par la porte de la nuit. Parce qu'il n'y a rien de l'esprit créé humain qui puisse... Il est capable, hein, bien sûr, il est capable, mais à condition de passer par un interrupteur. Et l'interrupteur, c'est la nuit aquasée de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, il faut qu'elle accepte de ne plus rien voir de ce qui est possible de voir dans les parties les plus subtiles, les plus pures, les plus immaculées, les plus puissantes, les plus pénétrantes de sa vie contemplative dans sa nature humaine. Son intellect agent est capax dei, c'est vrai, mais à condition de rentrer dans l'immense ténèbre de tout ce qui n'est pas Dieu. Et dans cette ténèbre de tout ce qui n'est pas Dieu, laissez Dieu illuminer cet intellect agent en l'actuant. Et si tu passes pas par la nuit aquasée, aquasée ça veut dire très 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 concentré. Et ça c'est déjà c'est pour la sagesse naturelle. Et pour la sagesse naturelle, c'est la nuit pure, intense de la foi qui fait qu'il n'y a plus que la lumière surnaturelle de Dieu, parce que dans la nuit toute pure de la foi, c'est-à-dire dans la mort totale, de la nuit totale de la lumière de gloire dans la nature humaine de Jésus, dans l'arrachement de son union hypostatique, dans la nuit totale de son corps cadavérique en son union hypostatique, là oui, je peux pénétrer et je vois que c'est dans cette nuit, c'est ma lumière, dans la lumière surnaturelle de la foi. Si je suis poussière et cendre. D'ailleurs, quand on prend autorité la nuit, il faut rajouter, je prends autorité avec la puissance de Dieu, avec la puissance, l'autorité du Christ, avec sa présence, son onction divine, sa présence personnelle, actuelle, c'est-à-dire accomplie, parfaite, vivante, lumineuse, féconde et efficace. Tout ça s'empare de moi. Et à ce moment-là, je prends autorité pour avoir autorité sur la création tout entière et décider que ça s'est détruit dans la terre, à condition que je le fasse comme poussière et cendre. Parce que ce n'est pas un acte de présomption, hein. C'est un acte dans la nuit à croiser de l'âme et dans la nuit surnaturelle de la foi. D'accord? C'est pour ça que, comme c'est en même temps la nuit à croiser de l'âme et la nuit spirituelle et surnaturelle de la foi, c'est pour ça que ça se base dans notre mémoire ATI, dans notre puissance de liberté pour s'y engloutir dans la poussière et la cendre. La poussière et la cendre. La poussière pour la nuit à croiser de l'âme et la cendre pour la nuit spirituelle naturelle de la foi. C'est pour ça que quelqu'un m'a fait remarquer que dans les prières qu'on fait pour la nuit, il manque poussière et cendre. C'est votre binôme qui m'a expliqué ça. C'est ça. Il manque ça, ça veut... Il manque poussière. Et c'est vrai. Et je dis, mais ça, c'est très, 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 très vrai.
Et le geste de paix, l'Eucharistie...
Et quand on tapera, on va tapera comme ça. De toute façon, c'est évident.
Le geste de paix...
Même Minou, nous, le sait très bien. Je vous ai interrogé plusieurs fois là-dessus. Thank you.
faire une petite demande. Je pars dans une heure. Et enfin, mon train démarre dans une heure. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'emmener à Gien.
Dans une heure, vous nous quittez.
Bah, dans moins d'une heure. Mon train part dans une heure, mais...
C'est vite, amen.
Ah. On connaît le chemin maintenant pour partir tout droit. Donc, c'est parfait.
C'est pas tout de suite.
Tu pars déjà?
Oui. Bah, il est à 15h. Le train est dans une heure. On met combien?
Tu prends un quart d'heure de battement quand même.
Oui, oui.
Si on nous enlève quelques panneaux sur le
trajet. Tu rentres aujourd'hui?
Oui.
Ah,
tu nous quittes maintenant, pratiquement?
Bah oui, oui. Je voulais pas interrompre.
D'accord. Non, mais si, t'aurais pu. Dommage qu'il n'y ait pas un train ce soir à... qu'il se fasse arriver à la gare demain matin.
Ah non, mais ce ne sera pas possible.
Ouais. Ah ouais. Ouf, d'accord.
Je suis en forme.
Ben, je sais bien.
Quelqu'un s'est proposé ou pas?
Oui, apparemment. J'ai entendu à bâbord quelque chose.
Oui.
D'accord.
J'irai bien, mais le.
Prends quelque chose quand même va grignoter quelque chose.
Puis j'ai un très bon copilote. Et il y a des courses
à faire aussi. T'as préparé tes bagages, ton truc, tout. Tu es prêt? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je suis le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, mon péché, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est pas toi qui avais demandé à Didier de te ramener un appareil?
Non, c'est moi.
C'est toi, pardon. Voilà, très bien. Bon, eh bien, on se prépare à ton départ dans un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, on passera à table, ça va?
Allez, on va aller voir.
Non, mais moi, je peux forcer.
Pas une retraite, tu vois, c'est juste, on discute. Ah, bonne franquette.
Et au mois d'août, ce sera
pourquoi
une retraite.
Parce que c'est pas tabou, ici.
Au mois d'août, ce sera une retraite.
On a décidé que on parle, c'est pas tabou. Alors que quand tu es ailleurs, partout, n'importe où, dans les paroisses, les machins, vaut mieux que tu mesures. Tu sors pas. Parce qu'il y a trop de... Il n'y a pas assez. Ouais, toi, par exemple, tu.
C'est toujours pas d'ailleurs.
Elle ne sait pas. C'est toujours pas au bout. Mais elle ne sait pas. C'est incroyable. Tu es proche, tu es plus proche, tu es plus intime. Ils ne savent pas. Et tu ne peux pas leur dire. Même dans les paroisses, il y a quelque chose de semblable. Moi, ici, je veux, Guillaume, tu vois, on dit non, on s'en fout. Même si on. Si on peut le dire, quand même. C'est la récré, les gosses, la maternelle. Ah, j'ai eu la Sainte Vierge. Ah oui, t'as vu la Sainte Vierge. Ah, oh, t'as vu la Sainte Vierge.
Il y a Manon qui vient aujourd'hui aussi.
Je pense que
Manon qui vient aujourd'hui.
Ah, peut-être, oui. Ça va être... Il faut que j'envoie un texto. Ce soir, je crois. Ce soir. Parce qu'elle travaille.
Ah, c'est vrai que là, c'est le week-end, ce soir, il y en a...
Ben, je crois qu'il y a quelqu'un... vos amis, là, ils sont censés arriver quand?
Demain.
Voilà. Ah,
de l'eau des courses et des
trucs. Comment dire, Didier est parti pour se laver les dents,
oui,
et faire une douche. Et se raser.
Un bon moment, je dors pas.
Mais c'est vite toujours très long. Et il a compris que s'il voulait prendre une douche, il fallait faire tout seul.
Elle était avec nous.
En toute simplicité, il prend toujours au moins 2 heures de prendre une douche. Il a besoin de ça, c'est l'homme des piscines, et il était nageur. Il a besoin que l'eau soit là pendant au moins 2 heures. Marthe.
Marthe
est
avec nous,
on
t'a envoyé un petit
coup.
Ah, très bien.
Ah, elle est tellement jolie, là.
Très volontiers.
Elle est si jolie.
Avec
Merci.
Tu veux de l'eau?
Texte à Didier pour lui dire qu'on prend sa table dans ce
coup. Didier, rapide.
Une voiture.
Ouais. Je te tire, s'il te plaît. Donc, c'est un facteur.
Alors, tu veux qu'il sache pour le seul dessin qu'il te dit.
Alors, il paraît clair que. Qu'est-ce qui se passe quand on plonge sous l'hôtel?
Dans le Seine-des-Saint, comment vous avez reçu la...
Madame Taré, je vois, mais ça reste imagé.
C'est par la foi, mystique-là. Par la foi, mystique. Par la foi, tu peux... C'est une espèce d'escalier, c'est une espèce de... Ça peut se visualiser quelque part, mais... Tu rentres dans le diamant. Est-ce que tu as... est-ce que ça t'a capté quelque chose quand Thérèse Avila a dit « C'est un diamant ». T'as capté, là hein? Et ben, quand tu rentres à l'intérieur du diamant, là où il y a le feu, hein, la fraternité amoureuse du Fils du Saint-Esprit, à l'intérieur du diamant. Et là, une fois que tu es installé là, tu t'assieds, et tu laisses l'union transformante lubrifier, hein, immaculiser toutes les espaces sphériques du diamant, dans toutes ses facettes, quoi, dans l'union transformante. Ça, tu sais faire, ça. Enfin, tu as repéré, en tout cas.
Oui.
Tu peux toucher, quoi, les grandes profondeurs du trône.
Tu l'as vu?
Non, mais il a lu, Saint-Thérèse d'Avila.
Oui.
Au jour de la fête de la Très Sainte Trinité, elle ne sait pas comment faire rentrer les gens dans l'union transformante, tant qu'elle explique. Et c'est pas elle qui explique, c'est le bon Dieu qui dit « Regarde le diamant ». Et avec le diamant, elle entend, elle comprend qu'il s'agit, et donc... de l'âme au moment où elle est créée par Dieu. Et des diamants, il y en a essentiellement un, c'est la création de la nature humaine, assumée dans l'incrée de Dieu, c'est la nature humaine hypostatique. Mais ce diamant, quelque part, il resplendit dans toujours de nouvelles facettes, l'Immaculée Conception. Si on regarde par la cause finale, c'est des myriades, et puis des myriades, et des myriades de diamants. Et en plus, ce diamant, l'âme, ne cesse de se renouveler, puisque c'est dans l'incarnation. Le diamant, c'est quand même du minéral. Et une cellule se multiplie. Et la nature humaine est une surmultiplication. Et donc, c'était... Ce diamant, en fait, c'est un escalier, c'est une montagne, c'est un courant d'amour, de lumière, d'un seul diamant, en plusieurs myriades de diamants qui le composent. Tu le vois, ça? C'est là-dessus où... C'est là-dessus, comme on arrive vers la fin, on peut monter cet immense escalier, avec l'Immaculée Conception, dans tout cet océan de diamants, qui ensuite constitue en fait les portes à l'unique diamant, puisque l'unique diamant est dans tous ces diamants, par myriades. Et là, tu rentres à la fois dans l'unité et la multiplicité, comme dit Aristote. Tu fais l'induction, mais surnaturellement, dans l'énergie de l'acte. Moi, je suis obligé d'employer les mots exacts, même si, bon, c'est pas grave. Et à ce moment-là, tu es dans le diamant. Tu es dans la paternité, dans le Saint-Dessin, la paternité de Dieu. Pour qu'il y ait la transformation de la nature humaine tout entière dans son corps spirituel. Ça va? Et ça, c'est ça, quelque part, le chemin du cinquième saut d'Apocalypse. Donc, quand tu célèbres la messe, bien sûr, tu rentres avec ton âme, la nuit à quoi c'est d'heure, à l'intérieur du Saint-Dessin, et tu te retrouves devant l'ouverture de l'âge d'alliance, dans l'immaculée conception. Cette mensualité, quoi, ouverte dans les gloires du ciel de la résurrection. Viennent jusqu'à toi pour que s'ouvre dans l'union apostolique déchirée le véritable diamant universel de Jésus vivant et entier. Et là, tu es dans le Saint des Saints. Ces choses-là se distinguent, mais elles ne sont pas séparées. C'est-à-dire, tu ne peux pas en faire, ça revient à dire, heureusement que si elles étaient séparées, on pourrait passer de l'une à l'autre, comme si on passait dans les poupées russes. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une méthode. Et nous, les cartésiens, les mathématiciens, on cherche toujours une méthode. Non? Mais quand on est porté par l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui fait que les choses, elles sont formulées d'une manière telle qu'on voit que c'est vrai, que c'est ça qui se produit. Mais c'est pas parce que tu l'as dit que du coup tu respectes toutes les étapes de ce qui a été dit pour y pénétrer. C'est pas la même chose, hein, de dire l'un ou l'autre. Mais quand elles sont dites, tu vois que c'est ça que tu vis dans le monde. Le fait d'avoir entendu, c'est une chose. On ne comprend pas, heureusement, comme une espèce de chemin ésotérico-spirituel, d'accord ? Voilà, non. Une espèce de pèlerinage métapsychico-spirituel, c'est... Non, c'est pas ça. Mais dans la nuit, à cause de l'âme, toujours pareil, poussée récente, c'est bien là que je veux pénétrer avec le Saint-Père. C'est vrai que quand, moi personnellement, à titre personnel, quand je rentre dans la lumière merveilleuse qui s'écoule, qui pénètre très simplement et très profondément dans le Saint des Saints, la paternité ouverte de Dieu, je ne fais que trois pas en même temps dans cette avancée qu'il aurait commune à tous les trois. C'est là, quand c'est la même, c'est comme ça que je fais, quand je fais avec comme ça, je sais que j'y suis. Et quelquefois je le vois aussi, mais je le vois pas comme je te vois, évidemment. Le Saint des Saints, c'est ça que tu posais comme sur le diamant. Hein. Là, Jean-Marc, il a vu hier soir, à la fin, on a terminé la messe de 18h. Hein? Il y a eu la coupe, il y a eu...
Il y a eu énormément de choses. D'abord, énormément
d'eau. Maintenant, prions encore une fois. Le prêtre a dit, prions encore une fois. Et tu peux dire ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors, j'ai vu plein d'anges tout autour de nous. Des âmes du purgatoire qui montaient au ciel, quelque chose. C'est vraiment une foule. Et des petits-enfants mort-nés, là, les âmes des petits-enfants mort-nés, qui étaient baptisés, qui montaient comme ça. C'était tout. Et après, j'ai bu un grand cadis, mais un truc énorme, tout blanc.
Grand comme ça.
Oui, au moins grand comme ça.
Mais à gauche, ça faisait, le oui, cadis sur l'autel,
oui, et ça faisait,
qui est grand comme ça, d'accord, oui, et, après, et ton cadis que tu as vu était grand comme ça, mais à gauche.
Et, oui.
Et sur l'autel, d'accord,
j'étais comme...
Mais pas posé. Oui.
À gauche, tout d'abord posé, et après ils sont envolés.
Oui, mais tu dis pas ce qu'il y avait dedans.
Ah non,
c'était rien. Une rose.
Mais c'était transparent et très beau. Enfin,
c'est transparent, faisait, comme du diamant. Et puis
et ça faisait comme ça. Comme une rose. Enfin, vous voyez, comme un vase, comme un... Mais c'est un calice, c'était un grand calice.
C'est un calice qui avait la forme d'une rose. Ouais. Et il y avait un peu la couleur rose ou pas?
Je m'en rappelle pas. Non, ça m'a pas marqué.
Non, c'est parce que j'ai... Je pose la question, c'est tout.
Non, puis ça fait ça.
C'est char de... C'est le nouveau char de feu.
C'est le char, c'est mais comme on en parlait des livres, je me suis demandé si c'était pas
ça. C'est Enoch.
Ouais.
C'est Enoch.
Un jour, on était en Israël, avec le père et ça tout, et puis il avait Enoch. Fait... Il était rentré dans la truc, quand le feu... chez les orthodoxes. Quand le feu sort du... Vous êtes au courant de ça?
Oui, de ça c'est plus. Bon. Oui.
Le père y était, puis nous on n'avait pas pu y entrer.
Ah ouais, mais...
Puis moi j'en avais marre avec tous ces flics qui nous empêchaient de passer. Je dis, ben, moi je vais rester devant le Saint-Sacrement de Jésus, où Jésus était là. Je vais rester au Saint-Sacrement et je verrai bien ce qui va se passer. Les boules de feu qui apparaissaient dans le truc, ils rentrent dans mon ventre. Alors, malade, mais ça tournait autour de moi. J'avais le corps en feu. Mais en feu.
Tes entrailles étaient en train de m'embrasser.
Et à plat ventre, je rentre dans ma chambre. Mais à plat ventre, tellement je souffrais. Eux, ils sont. Alors, je suis arrivé dans mon lit, mais je ne pouvais rien faire. Enfin, comme ça, j'étais comme ça. Puis le feu, oh là, c'était effrayant. Et. Tous, ils sont partis, l'après-midi, ils sont partis rejoindre le père, pas tout sympa et tout. Le père d'abord me dit, bah, c'est sympa, comme ça tu vas, on va aller en France, c'est toi qui donneras le feu. et moi, impossible de bouger de mon lit. Et il y avait Enoch. J'avais Enoch là, qui était en face de moi, et qui me protégeait. Hein, je vous l'ai décrit, vous m'avez dit, bah, c'est Enoch. Vous ne vous rappelez pas avec les nattes? Je me dis, il a des nattes et tout.
Je ne me rappelle pas de tout, tu sais.
Mais, ouais. T'as des bons copains, toi.
Comment?
T'as des bons copains.
Ah oui. Ah oui, je me rappelle. Et eux, ils avaient été rejoints toute la foule et tout. Et moi, impossible de bouger. Je suis resté 3 jours en ligne. 3 jours, impossible de bouger. Tellement j'avais mal partout.
Et en rentrant, t'as pu allumer le feu?
Hein?
En arrivant, t'as pu allumer le feu?
Je te donne les horaires quand j'arrive.
Ah, je sais pas ce qui s'est passé après. Mais...
Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit.
On rentre, je rentre avec monsieur.
Mon père, j'ai déjà vu du calice, du sang, quelque chose qui s'est coulé.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Mais c'est pas du sang.
C'est bien, c'est intéressant.
C'était blanc, translucide. Non, mais en fait, lumineux.
Je te le dirai.
Ouais. C'est arrivé plusieurs fois. Et c'était pas des illusions comme ça.
Salut mon pote.
Pas des illusions, des photos fortes, c'était ça. Ça dure quelques
secondes. Dans la nuit, t'es dans un chambre ou bien dans une messe?
Non, dans la messe, à l'Eucharistie.
Dans la messe, là.
L'Eucharistie.
Dans la messe, là, où t'as ta paroisse?
À la cathédrale, et puis ici, ça m'est arrivé aussi ici une aussi, fois, ouais. Et puis... Je sais pas, c'était léger, mais vraiment pur. On fait ça, on regarde. Ah bah oui, c'est vrai.
Ah oui, d'abord, vu.
Tu vois, t'as un
peu de la vie en bleu.
C'est ça, on a un haut bleu.
Pas de mémoire.
Un peu mystico, oui, mais
un petit peu bleu, je crois. Ah, c'est noir,
ah bon?
C'est pas mystico, c'est...
Ou alors, c'est juste de la beauté. Hein.
D'accord, d'accord.
C'est très beau. Hein. Allez!
Bon, il est parti.
Moi, tu vois.
Moi, tu vois. C'est
perdu trois chakras.
Je suis persuadé qu'avec le père
et le
père, on est les Gédéons qui vont se battre au dernier truc. Non, mais c'est vrai. Je pense que je vais revenir en Israël.
Et tu mourras là-bas.
Oui, oui.
Au mont des Oliviers. Montre, va au mont des Oliviers.
Ah bah. Oh là là.
Bon. Nous mets pas au chômage.
Oui, voilà. Tu fais la bise, oui.
Merci.
Bah non, ça fait plaisir. Ouais.
Par contre, il faut travailler 9 jours.
On
a 9 Français, donc nous, ils sont habitués.
Bonne évasion.
Ah oui.
Moi, tu viens parler sur le téléphone.
Oui, ça marche.
Mais il y a un saut.
C'est mon téléphone.